Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal, c'est avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La France fait plier Bruxelles. Répit de courte durée, la signature de l'accord avec les pays du Mercosur est reportée à janvier. C'est l'une des mesures du budget de la sécurité sociale. Tous les parents d'un enfant né à partir du 1er janvier 2026 bénéficieront rétroactivement du nouveau congé naissance. Une fois son entrée en vigueur actée, la magie de la Coupe de France reprend ce soir avec une belle histoire. Celle d'un match reporté en raison du mariage d'un joueur.
Le traité de libre-échange avec les pays du Mercosur mis sur pause, reporté au mois de janvier.
Annonce hier soir de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Un mois de répit obtenu au forceps par Emmanuel Macron, soutenu par l'Italie. Le compte n'y est pas, dit le chef de l'État. On en parle ce matin avec Thomas Becker, service politique RMC. Emmanuel Macron a donc expliqué cette nuit les raisons de ce coup de pression sur Bruxelles. Pour lui, Thomas, le texte doit évoluer et changer de nature.
Oui, traduction, il veut que les garanties demandées depuis des mois par la France soient écrites noir sur blanc dans l'accord du Mercosur. À la sortie du Conseil européen au milieu de la nuit, le président rappelle ses conditions.
Nous voulons donc ce qu'on appelle des mesures miroirs, en particulier sur l'alimentation animale, les pesticides. Sinon, ça n'est pas juste. Je redis, aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Nous avons besoin d'avoir ces avancées pour que le texte change de nature, pour que on parle d'un autre accord.
Et cette étape indispensable pour le chef de l'État, que les pays du Mercosur acceptent de soumettre leurs producteurs aux normes européennes pour mettre la pression pendant ce délai de quelques semaines. Emmanuel Macron peut compter sur Giorgia Meloni, première ministre italienne, qui demande les mêmes garanties. C'est grâce à l'intervention italienne que la France est parvenue in extremis à arracher ce délai. Alors est-ce que la France acceptera le Mercosur en janvier? Pour Emmanuel Macron, c'est encore trop tôt pour le dire.
Je ne sais pas répondre à votre question aujourd'hui. Je l'espère. Parce que ça veut dire qu'on aura obtenu des avancées, pour certaines qui sont des avancées historiques, mais il faut du concret.
Pas vraiment de quoi calmer la colère des agriculteurs. Les syndicats demandent d'une seule voix l'abandon pur et simple du traité.
Des syndicats reçus ce matin à Matignon avec sur la table le sujet sensible de la crise de dermatose nodulaire. Les agriculteurs continuent de réclamer la fin de l'abattage systématique dès qu'un cheptel, des cheptels au premier cas recensé. Ils restent mobilisés ce matin, les agriculteurs, principalement dans le sud-ouest. Ça s'annonce compliqué sur les routes, autant que l'heure est aux vacances. Bison futé, le drapeau orange dans le sens des départs à l'échelle du territoire. Ce sera même rouge en Auvergne-Rhône-Alpes en direction des stations de ski.
Alors je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à nous avoir appelés pour dire votre soutien à la mobilisation agricole cette semaine. S'il vous empêche d'aller chez papy mamie pour Noël, est-ce que vous les soutiendrez toujours? Est-ce qu'il faut une trêve de Noël? J'attends les agriculteurs ce matin, toujours mobilisés. Vous avez la parole au 32-16, mais aussi les futurs vacanciers, les transporteurs. On continue le débat. La dermatose, bien sûr. Le traité de libre-échange avec l'Amérique latine, c'est à la une ce matin.
Sébastien Lecornu met la pression sur les 7 députés et 7 sénateurs de la commission mixte paritaire réunie au Palais Bourbon 9h30 ce matin en charge de s'accorder sur le budget de l'État. On en est très loin et en cas d'impasse, le Premier ministre envisage une loi spéciale pour garantir le bon fonctionnement de l'État au 1er janvier avant la reprise des débats parlementaires le mois prochain.
Une bonne nouvelle maintenant pour les futurs parents.
Ceux dont l'enfant naîtra à partir du 1er janvier 2026, ils pourront bénéficier du nouveau congé de naissance voté dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Le gouvernement a apporté des précisions hier soir. Il faudra, pour ses parents, un peu de patience, attendre, Romain Houg, l'entrée en vigueur technique de la mesure.
Oui, parce qu'une entrée en vigueur effective au 1er janvier 2026 n'était techniquement pas envisageable pour les employeurs, explique le gouvernement. Le 1er janvier, c'est dans moins de 2 semaines. Le délai est trop court pour qu'ils puissent s'organiser. En fait, si votre enfant naît en début d'année prochaine, vous pourrez bénéficier de ce nouveau congé, mais de manière rétroactive au cours de l'année, dès que le dispositif sera sur les rails. Alors, on rappelle les grandes lignes de ce nouveau congé. C'est 1 ou 2 mois supplémentaires au choix par parent. Ils viennent s'ajouter aux congés parentaux déjà existants de 4 mois pour la mère et de 28 jours pour le père. À noter qu'il sera possible de fractionner ces congés supplémentaires, c'est-à-dire de les prendre en 2 fois. Quant à la rémunération, elle doit encore être fixée par décret, mais elle devrait être de 70% du salaire net pour le premier mois et de 60% pour le deuxième mois.
La plateforme Shein sera-t-elle encore accessible demain? La réponse revient au tribunal judiciaire de Paris, saisi par l'État. Il rend sa décision ce vendredi concernant la suspension pour 3 mois de la plateforme chinoise pour vente de produits interdits. Il est 7h04, vous écoutez RMC. Une étude maintenant inédite sur la capacité de la justice à répondre aux violences conjugales. Pour la première fois, le ministère de l'Intérieur et de la Justice ont rapproché leurs données statistiques et ce qu'il en ressort est effarant. Sur 800 000 plaintes enregistrées entre 2018 et 2023, 42% ont été classées sans suite. La faute, Julie Brault, à de trop nombreux obstacles.
Près de la moitié des plaintes pour violences conjugales classées sans suite pour des faits insuffisamment caractérisés. Un constat alarmant mais peu étonnant, souligne Maître Yang Paya. Selon l'avocate spécialiste du domaine, ces violences souvent perpétrées à huis clos sont les plus difficiles à prouver.
C'est souvent dans l'intimité du couple et donc il y a un manque de témoins. C'est un peu parole contre parole. Et donc un mal important à construire son dossier et apporter la preuve de ces violences.
Des preuves fragiles et difficiles à rassembler pour les victimes qui se heurtent ensuite lors de leur dépôt de plainte à des policiers et gendarmes certes désormais mieux formés mais qui rechigneraient parfois à mener des investigations poussées selon l'avocate.
Si c'est pas un flagrant délit, il n'y a pas effectivement les investigations menées, souvent par manque de temps, par manque de moyens aussi et donc il y a pas le dossier n'est pas suffisamment étayé.
Pourtant, quand les affaires de violence conjugale parviennent à arriver devant les tribunaux, 95% des mises en cause sont reconnues coupables selon les données des ministères de l'Intérieur et de la Justice.
Un retour à Bruxelles où Emmanuel Macron se dit prêt à reparler à Vladimir Poutine en vue de négociations de paix pour l'Ukraine menées par les États-Unis alors que l'Europe a voté hier un nouveau soutien à Kiev pour 90 milliards d'euros de prêts. 3 points de plus pour Strasbourg, vainqueur des Islandais de Breiðablik. 3-1 hier soir, les Alsaciens terminent en tête des phases de poule de la Ligue Europa Conférence qu'ils retrouveront en mars prochain qualifiés pour les huitièmes de finale. Place désormais au dernier week-end de foot de l'année, la Coupe de France, 32e de finale. Ça débute ce soir, 20h45, cette rencontre à vivre sur RMC, Lens, Brest, Montpellier, mais aussi les petits poussés de Périgny ou de Croix, club de 5e division opposé à Reims ce soir. Et c'est l'une des belles histoires de la compétition. Le match devait se jouer samedi, déplacé à la demande des nordistes. En cause, Clément Brossard, le mariage de son capitaine Hugo Robert demain.
Oui, quand il apprend que le match est programmé samedi, Patrice Vénantz, le président du club, observe Hugo, son capitaine.
Il était dans un état épouvantable.
La date est bloquée depuis presque un an, mais sa future femme Margot culpabilise.
Bah, le foot, c'est sa vie. Le premier mot que je lui ai dit, c'est désolé. Hugo a essayé de me remonter le moral, même si bon, c'était pas ça pour le coup. Il y avait en soi deux sujets, le fait qu'il ne puisse pas jouer et que son équipe et son témoin ne puisse pas non plus être présent au mariage.
Son témoin, c'est Thomas, le numéro 10 de l'équipe.
J'ai pas eu de choix à faire. Il est venu tout de suite, il m'a dit Cops, quoi qu'il arrive, tu joueras. Tu viendras après, bien sûr. Ça me tient à cœur d'être son témoin de mariage. Donc, louper la cérémonie, tout ça. En plus, c'était 15h30, c'est pendant la cérémonie. Donc, j'étais vraiment dégoûté. Pour une fois que j'allais me dépêcher dans les douches, parce que je suis toujours le dernier.
Ce ne sera pas nécessaire, car Croix a finalement pu inverser sa programmation. Avec un autre club du Nord, Marc-en-Barœul, programmé lui vendredi et préférant jouer samedi, Hugo Robert est aux anges.
Ça va être la magie du week-end. J'ai réussi à me marier, à jouer mon premier 32e de finale de Coupe de France. Et ensuite, le lendemain, oui, c'est le plus beau jour de ma vie.
Une qualification en 16e de finale ce soir et tout serait parfait.
Et Marc-en-Barœul jouera donc demain face à 3. Le PSG sera opposé à Vendée-Fontenay, club de National 3. L'OM, Monaco et Lyon jouent dimanche. Et puis un mot du Maroc, vainqueur hier soir de la Coupe arabe face à la Jordanie. 3-2 aux prolongations et à 2 jours maintenant du début de leur Coupe d'Afrique des Nations.
Et que vous vivrez évidemment sur RMC aussi, comme ce week-end de Coupe de France. C'est parti pour la Coupe de France. Faut s'habituer maintenant, c'est avant Noël. Avant, exactement, c'était à la rentrée au mois de janvier qu'on allait se blesser sur les terrains gelés. Maintenant, on fait ça au mois de décembre parce qu'il fait 12 degrés aussi.
Moins froid.
Merci Thibaut Texer. On va accueillir Thierry au 32-16 ce matin, qui nous a appelé depuis le Rhône. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour. Ça va?
Ça va et vous?
Oui, super. On peut se tutoyer?
Allez-y, je vous en prie. Mon cher Thierry, oui. Je vois sur ma petite fiche, je soutiens les agriculteurs, mais pas les blocages. Expliquez,
ouais.
Explique.
Alors... Bah, moi, je vais t'expliquer clairement. Je suis pour les agriculteurs. Le souci, c'est qu'ils décident de fermer, de bloquer les plus autoroutes, interdire les accès aux stations de ski. Moi, je soutiens aussi les saisonniers qui l'année dernière ont pas eu beaucoup de neige et qui y a beaucoup de stations qui ferment. Et je suis pas contre qu'on manifeste, mais je pense qu'il y a d'autres manières que de manifester. Il y a des gens qui travaillent, c'est leur gagne-pain. Aussi dur que les agriculteurs, et je les soutiens, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, plutôt que d'empêcher les gens de travailler, parce que les saisonniers, c'est aussi des étudiants, c'est aussi plein de personnes comme ça, je pense que si...
Thierry, il faut entendre l'appel de la... C'est dans la dépêche du midi, je crois, ce matin, que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, appelle à une trêve de Noël. Au moins pour les blocages, la période des fêtes, les gens vont se déplacer, partir en vacances. Il y a les livraisons, on en parlait hier de colis, de denrées alimentaires produites par ces mêmes agriculteurs. Il faut une trêve de Noël, Thierry?
Je pense qu'il faut une trêve de Noël, mais il faut une trêve ou alors faire des manifestations tout autres. Faites qu'ils fassent la gratuité des péages, par exemple. Là, je peux vous dire que le gouvernement va bouger. Mmh. Obligatoirement.
Il y a d'autres modes d'action, quoi.
Il y a d'autres modes d'action que encore prendre les touristes, parce que il y a les étrangers aussi qui vont au ski, qu'on réservait déjà depuis quelques mois, hein, pour pas dire une année.
Non, mais là, c'est vrai, quand je vois les mobilisations du Sud-Ouest, je me dis, pour ceux qui avaient pour projet peut-être de monter du côté des Pyrénées, ça peut être compliqué ce week-end. On va suivre ça. Bah, tiens, vous avez peut-être un projet de vacances, de départ aujourd'hui, demain, ce week-end. Dites-le nous au 32-16. Est-ce que vous craignez les blocages des agriculteurs? Merci Thierry, hein. Merci mille fois d'avoir appelé le 32-16 ce matin. On continue ce débat et puis on en parlera avec le porte-parole de la Confédération Paysanne qui sera mon invité à 7h40 tout à l'heure, 7h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Afficher la photo de ces voleurs peut vous coûter très cher. Bonjour Clément Fongueuse.
Bonjour monsieur.
Vous êtes commerçant caviste à Rosières-en-Santerre, c'est dans le département de la Somme. La semaine dernière, on vous a volé une tireuse à bière ainsi que des fûts de vin, champagne, whisky, du matériel qu'on ne vous a jamais rendu. Vous avez donc décidé d'afficher la photo des voleurs, mais ils menacent désormais de porter plainte contre vous. C'est le monde à l'envers, hein. C'est ce que vous allez nous dire dans un tout petit instant. Votre parti pris, à tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h14, vous êtes sur RMC, RMC Story, c'est Apolline Matin. Vous retrouvez Apo lundi matin, hein, bien entendu, pas encore en vacances Apolline. Je la remplace ce matin jusqu'à 9h avec vous au 32-16 et avec nos invités. Quand un voleur menace de porter plainte contre le commerçant qu'il a volé, c'est ce qui vous arrive, Clément Fongueuse, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes caviste à Rosières-en-Santerre, 3000 habitants, on est entre Amiens et Saint-Quentin dans le département de la Somme. La semaine dernière, il y a un peu plus qu'une semaine, hein, cela dit, deux personnes vous ont loué pour 9000 euros de matériel, du matériel qu'ils refusent de vous rendre. Il y a une tireuse à bière, des fûts, du champagne, whisky, du vin.
Deux tireuses.
Matériel pour lequel ils vous avaient laissé un chèque de caution. Sans provision, bien entendu. Vous avez donc affiché sur les réseaux sociaux leurs photos. Et ils menacent désormais de porter plainte contre vous. Alors, afficher l'image de voleur est interdite par la loi. Vous risquez une peine d'emprisonnement d'un an et 45 000 euros d'amende. Vous le saviez ou vous avez délibérément enfreint la loi?
Je suis conscient des risques. Avant de publier la photo, je me suis bien sûr renseigné. J'ai passé plusieurs coups de téléphone et j'ai regardé un petit peu ce que je risquais. Mais vous savez, aujourd'hui, c'était le seul moyen que j'avais pour les arrêter. Ouais. Depuis le vol qui avait été commis chez moi, ils sont allés chez plusieurs autres de mes collègues. Ils ont réussi à certains endroits à faire la même chose que chez moi et on a réussi à éviter certains vols grâce à la diffusion des photos.
D'accord. Pour ne pas qu'ils puissent récidiver, c'est votre motivation. Alors, nos confrères de France 3 ont pu échanger, hein, avec l'un des voleurs. Il ne veut pas rendre le matériel, c'est assez ubuesque, hein, mais je cite, il dit qu'il n'a pas volé, mais qu'il a eu besoin d'argent. On va laisser nos auditeurs interpréter cette défense. Mais aujourd'hui, vous risquez de perdre votre matériel et de devoir lui verser des dommages et intérêts. C'est un peu rageant quand même.
Je vous retourne la question, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on marche sur la tête?
Il y a d'autres commerçants dans le département qui disent avoir été victimes de ces deux voleurs. Pour vous, on marche sur la tête si c'est vous qui étiez condamné avant eux, si j'ose dire.
Eh ben, écoutez, j'ai pris cette décision après une réflexion importante et c'était le seul moyen de les arrêter. Aujourd'hui, ils n'avaient plus de limites. Si on n'avait pas diffusé cette photo, il y aurait encore plus de commerçants comme moi, des petits commerçants qui auraient été lésés. Et je suis prêt à encourir le risque des 45 000 euros et un an d'emprisonnement, justement parce qu'aujourd'hui, je suis fier d'avoir pu les arrêter.
Mais Clément Fongueuse, vous avez porté plainte quand même. Vous êtes passé par la voie classique quand même.
Je suis passé par la voie classique, mais malgré mon dépôt de plainte, les vols ont continué en fait. Tant que vous diffusez pas l'image et la tête de ces personnes, ils peuvent aller dans n'importe quel commerce et commettre les mêmes infractions. Aujourd'hui, il y a rien qui nous a laissé. Il y avait aucune suspicion sur eux lorsqu'ils sont venus.
En fait, les faits remontent aussi décembre.
Oui.
On n'est pas dans un débat sur la lenteur de la procédure ou la lenteur
non,
de la
justice, du tout.
C'est immédiat. Mais vous vous exposez à des sanctions.
Bien sûr.
Est-ce que aujourd'hui, parce qu'il y a quand même eu ces mouvements militants, il y a notamment le collectif Ras-le-Vol qu'on va interroger ce matin, qui plaide pour un changement de la loi, pour que les commerçants puissent ainsi faire du name and shame, hein, dénoncer, montrer les voleurs. Vous plaidez pour ce changement de la loi?
Bien sûr, vous savez, le collectif Ras-le-Vol n'avait pas été là pour moi, notamment avec l'appui important de Jérôme Jean. Je ne pense pas que j'aurais fait cette démarche.
D'accord, d'accord. Aujourd'hui, vous avez reçu de nombreux soutiens localement. Je tiens à le dire ici aussi d'ailleurs, hein, au 32-16, dans les messages Victor, par exemple, il y a des messages sur le WhatsApp RMC.
Et notamment des messages qui nous arrivent en ce moment même. Je lis celui de Franck qui nous dit que ces commerçants ont bien raison de montrer leurs voleurs. Il ne faudrait pas inverser les rôles, nous écrit Franck, qui nous dit aussi, qui en tout cas lui déplore que selon lui, je le cite, la police ne fait rien.
Alors, je ne sais pas si la police ne fait rien ou la gendarmerie...
La police travaille. La police travaille, mais avec les moyens qui lui sont mis en place.
Bon, ça, c'est important de le souligner, et c'est bien que vous le reconnaissiez aussi, Clément Fongueuse. Cela dit, moi, je suis toujours un peu embêté quand on en arrive à se faire justice soi-même. Je pense que, comme plein de gens, il y a beaucoup de compréhension dans votre. Vous êtes commerçant, en fait. Hein, on est juste avant Noël, vous perdez 9000 euros, du matériel. Là-dessus, il y aura beaucoup de solidarité, il n'y a aucun doute. Mais vous vous mettez à la faute. Vous vous mettez à la faute, et quelque part, vous renvoyez le message que l'État ne peut rien contre ces voleurs. C'est votre sentiment ?
Je ne dis pas que l'État ne peut rien contre ces voleurs. On peut toujours inverser la tendance. L'État peut toujours être plus dur avec ce genre de personnes. Mais en l'occurrence, ce sont des personnes qui sont multirécidivistes. C'est des gens qui ne comprennent pas les sanctions qui leur ont déjà été données auparavant. En fait, c'est pas quelqu'un qui vient de commencer et quelqu'un qui, entre guillemets, a vraiment besoin dans l'urgence. Vous voyez, il y a certaines circonstances qui peuvent être atténuantes. Mais là, on a face à nous des gens. C'est leur métier. C'est une personne qui m'a avoué par téléphone que être escroc, c'était son activité.
Vous n'avez pas peur, Clément Fongueuse, pardon, j'ai dit ça bêtement, mais vous avez votre commerce, vous avez peut-être une famille, des amis, des proches. Vous n'avez pas peur de représailles quand vous procédez ainsi ?
Alors, effectivement qu'on a peur de représailles, mais la plus grande des peurs, c'est que des collègues ou moi-même, on ferme notre entreprise à cause de personnes comme ça. C'est ça la plus grande des peurs. Si demain, j'ai rien à mettre dans l'assiette de mes enfants, est-ce que je vais devenir comme eux ? Moi, la peur, c'est de devenir comme eux. Et j'ai pas envie de devenir comme eux, j'ai envie de rester dans la légalité, en fait.
Est-ce qu'il faut changer la loi ? Est-ce qu'il faut permettre aux commerçants de mettre ses photos, de mettre ses vidéos ? J'attends nos auditeurs ce matin au 32-16, Clément Fongueuse. On aura aussi le collectif Ras-le-Vol un peu plus tard sur RMC Story. Mais merci mille fois d'avoir pris quelques minutes pour expliquer cette démarche. Chacun se fera son avis. Nous, on n'est pas là pour juger. Il y a eu clairement quelque chose d'illégal de commis. Est-ce que la réponse, c'est commettre autre chose d'illégal ? Est-ce que vous soutenez Clément Fongueuse ? Vous continuez à nous écrire comme vous l'avez fait depuis tôt ce matin. On aura ce débat en direct, bien entendu, sur RMC. Merci mille fois. Il est 7h20, l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, nous a rejoint. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Alors Arthur, on apprend qu'en Ukraine, les drones sont parfois utilisés pour ravitailler les soldats sur le front ou même pour transmettre des messages.
Et oui, les drones sont devenus les nouveaux pigeons voyageurs, Mathieu, et c'est pas si bête puisque si on a vaincu les nazis, c'est aussi grâce aux pigeons voyageurs.
Et puis Arnaud Demange qui pirate le face-à-face, l'invité de Laurent Neumann ce matin, c'est l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans moins de 50 secondes. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous avez fait le bon choix. C'est l'heure de retrouver l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Mathieu.
Le journal Le Monde raconte que pour contourner la menace russe, des soldats ukrainiens sont désormais ravitaillés directement par les airs.
Oui, des opérations qui sont réalisées par des drones. Hein. Ces drones larguent des colis aux soldats. Dans ces colis, il y a des boîtes de conserve, donc de la nourriture, des téléphones, où les combattants peuvent voir des vidéos de leurs proches. Mais il y a aussi des lettres manuscrites un peu à l'ancienne.
Et en fait, vous dites qu'on se sert de ces drones comme de pigeons voyageurs.
Et bien voilà, c'est exactement ça. On revient aux vieilles techniques, hein, puisque les pigeons voyageurs, évidemment, on s'en servait déjà dans l'Antiquité. Les pigeons voyageurs, c'est l'ancêtre du drone, puisque cet animal a une qualité rare. Quel que soit l'endroit d'où il part, il revient toujours à sa maison. Si un pigeon est parisien, par exemple, vous pouvez le lancer de n'importe quelle ville, il rentrera à Paris, c'est mieux qu'un GPS.
En cas de guerre, les pigeons sont vraiment utiles ?
Eh bien oui, là, vous ne croyez pas si bien dire, Mathieu, chez nous, les pigeons, c'est une armée à part entière. Hein. En France, on adore ça. Et la première guerre où on a mis les pigeons en première ligne, c'était en 1870. On affrontait la Prusse. Hein. La Prusse était le nom de l'Allemagne à l'époque. Et à un moment de cette guerre, Paris était complètement assiégé par les troupes allemandes. La capitale était coupée du pays. Alors, que faire, évidemment ? Eh bien, on a l'idée de mobiliser des pigeons voyageurs pour communiquer avec nos armées en province. Un volatile, à l'époque, pouvait transporter 3000 messages miniaturisés à lui tout seul. Un seul. Donc, si vous voulez, on a perdu cette guerre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on avait une nouvelle arme.
Et certains pigeons vont devenir même des héros militaires.
Mais oui, et le plus connu, c'est le pigeon Vaillant. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Des soldats français sont assiégés dans une forteresse. Pour demander des renforts, le commandant de la forteresse envoie des pigeons voyageurs. Alors, ils sont tous abattus par les Allemands les uns après les autres. À la fin, il ne reste plus qu'un pigeon sur lequel reposent tous nos espoirs. Et ce pigeon va y arriver. Il délivre le message de SOS. Mais juste après, parce qu'il avait été asphyxié par des gaz, il succombe à ses blessures après avoir rempli sa mission. Ce pigeon sera cité à l'ordre de la nation, Mathieu, une récompense en général réservée aux êtres humains. C'est un héros de guerre.
Et puis alors, on dirait le titre d'un mauvais film sur Netflix, les pigeons contre les nazis.
Eh oui, mais c'est pourtant réel, hein. Cette opération portait même un nom, l'opération Columba. Elle est lancée par les services secrets britanniques entre 1941 et 1944. Ces services secrets envoient 16 000 pigeons à travers l'Europe. Les oiseaux avaient tous un questionnaire multilingue destiné aux résistants des pays occupés par les nazis. Les résistants remplissaient le formulaire en donnant des informations stratégiques, la place des fortifications, le mouvement des troupes. On remettait le petit formulaire dans la patte du pigeon. Le pigeon repartait pour Londres. Et voilà, le tour était joué. Ces dépêches vont notamment beaucoup aider pour préparer le débarquement en Normandie.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on compte encore sur ces pigeons voyageurs?
Alors, à l'ère des drones, on pourrait se dire que ça devient inutile. Mais le principe reste, hein, puisque pour des questions de discrétion, l'armée russe camoufle désormais certains de ses drones avec des pigeons. Et c'est méconnu, mais l'armée française est la dernière armée européenne à avoir un colombier militaire de 200 pigeons. Il est au fort du Mont-Valérien, à Suresnes. Franchement, on ne sait jamais, ça peut servir.
On a encore un colombier militaire aujourd'hui.
On peut le dire, absolument.
On se posait la question de pourquoi il y a des vétérinaires militaires. Maintenant, on sait.
Et maintenant, on sait exactement.
C'est pour le colombier militaire.
200 pigeons.
Merci Arthur Chevalier, merci, l'historien colombophile.
Colombophile, voilà, c'est le mot.
Spécialiste des pigeons d'Apolline Matin. Il est 7h25 sur RMC, RMC Story.
RMC. Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud Demanche.
Et bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, Laurent Neumann reçoit l'ancien commissaire européen Thierry Breton.
Moi j'ai des poules, des cochons, des moutons qui font belle.
Vous l'avez?
Ouais,
vous l'avez. Festival Robles.
Ah oui, c'est ça.
Les années 90. Ouais. On parlera donc des agriculteurs qui sont toujours vent debout contre l'accord entre l'Union Européenne et le Mercosur. La signature a été reportée d'un mois, mais ça continue à mobiliser les agriculteurs. Alors je rappelle le principe, c'est un traité de libre-échange entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Et vous savez que le problème, c'est la viande brésilienne. Voilà, elle est pleine d'antibiotiques, elle est pleine d'hormones. Victor Pourchet me disait dans le couloir, la viande brésilienne, c'est comme la brésilienne tout court.
Oh non.
Si elle est bonne, c'est qu'on a injecté des produits dedans. Félicitations, hein, bravo.
Il parle comme
d'ailleurs,
ça, Victor
Pourchet. Mais oui, si ça, voilà. D'ailleurs, si ça se trouve, les Sud-Américains aussi manifestent en ce moment, mais on le sait pas. Peut-être qu'ils veulent pas de nos produits français. Leurs agriculteurs sont peut-être pas contents. Ils disent, comment? Alors nous, on se fait chier sur nos exploitations et on leur envoie des vaches super qu'on a boostées aux stéroïdes, nourries au plutonium enrichi. Elles font 4000 kilos, elles ont 8 mamelles, dont 4 qui font du lait chocolaté, 2 qui sont connectées avec une appli. On leur fait des vaches high-tech et eux, ils nous envoient quoi? 3 escargots à l'ail et des pâtes de grenouille. On leur envoie de la bouffe, ils nous envoient leur poubelle. C'est quoi ces gens? Il faut trouver une solution. Voilà, Pedro, calme ton excitation. Quand tu vois la gueule de leur vache pleine de dermatoses avec des pustules et des croûtes, estime-toi heureux qu'on ait les escargots. Vous savez qu'on parle de 90 000 tonnes de viande de bœuf sud-américain importées en Europe avec le Mercosur, ce qui déséquilibrerait le marché. Manu Le Chypre me disait dans les couloirs, moi je peux manger une tonne ou deux, mais je peux pas faire plus. Bref, des centaines de tracteurs roulaient encore vers Bruxelles hier. Alors on les entend, ils sont toujours sur la route. Donc ceux-là, ils arriveront la semaine prochaine, parce qu'à 12 à l'heure, ça va quand même pas vite. Et Emmanuel Macron est toujours vent debout contre le traité. Je suis sûr qu'il est dans les manifs, déguisé en paysan, à protester. Non à l'accord! Non à l'accord! Macron, démission! Macron, démission! En route! Tyran! Bien en fait de crier ça, je vous comprends les réfractaires, ça devient n'importe quoi.
Merci.
Allez, à tout à l'heure, Thierry Breton,
Arnaud. 8h30. Arnaud Demanche, je vous retrouve tout à l'heure à 8h20 en direct et puis en podcast quand on veut sur l'appli RMC. Vous restez bien avec nous à suivre la météo et le journal, à tout de suite. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Des paris truqués dans le tennis professionnel. Une vaste enquête menée par la police judiciaire. C'est une information RMC. 3 nouveaux joueurs placés en garde à vue. Ils ont tout avoué. Un mois de répit, la signature de l'accord avec le Mercosur reportée à janvier. Victoire pour Emmanuel Macron, mais les agriculteurs attendent encore des garanties. Et puis un compromis qui s'annonce quasi impossible à trouver. Sénateurs et députés doivent s'accorder aujourd'hui sur une nouvelle version du budget.
Une vague d'interpellations dans le monde du tennis professionnel. Écoutez bien, pour des paris sportifs truqués.
C'est une vaste enquête qui est en cours menée par la police judiciaire. Des parieurs auraient remporté de grosses sommes d'argent après avoir corrompu des joueurs qui auraient volontairement perdu un jeu ou un set, faussé donc le score dans de petits tournois. Déjà 7 personnes mises en examen, dont 3 joueurs français. Et c'est une information RMC. C'est vous qui nous l'a révélé ce matin, Guillaume Biège, chef du service police-justice. 3 autres joueurs ont été aussi placés en garde à vue.
Oui, 3 joueurs français interrogés la semaine dernière par les enquêteurs. Ils ont tout avoué d'après nos informations et ils seront bientôt convoqués par un juge pour être mis en examen. On parle là de tennismen qui ont du mal à vivre de leur sport, qui sont très loin dans les classements mondiaux, pas de sponsor, pas d'entraîneur et qui n'imaginent pas que la triche sera découverte. C'est ce que résume le chef du service central des courses et jeux, Stéphane Piala.
Il faut bien s'imaginer qu'on a des compétitions de bas niveau, de petit niveau. On a des joueurs qui ne sont pas des joueurs très visibles en tennis. On a des faits qui se passent à l'étranger. On a des paris qui sont à l'étranger. Donc, on est vraiment sous les radars. C'est-à-dire que tout le monde s'imagine qu'il ne se fera pas attraper. Et voilà, c'est pour ça que le sportif accepte de franchir le pas.
Les premiers soupçons sont apparus au tournoi de Rodez il y a 2 ans, quand les policiers ont détecté des paris anormaux sur 2 Français qui jouaient en double et qui ont eu un comportement étrange sur le terrain dans leur façon de jouer. Ça a été le point de départ de l'enquête. Et depuis, les enquêteurs ont constaté sur d'autres matchs des gains colossaux pour les corrupteurs, souligne le commissaire Piala.
Sur une demi-douzaine de matchs, on est déjà à plusieurs centaines de milliers d'euros de gains pour les corrupteurs. On est sur 600-700 000 euros de gains sur 6 matchs. Ça représente potentiellement des gains très importants.
Sachant qu'au total, l'enquête porte désormais sur 45 matchs suspects disputés sur 3 continents.
Enquête RMC de Guillaume Biège, chef du service police-justice. Première nuit en prison à Besançon pour Frédéric Péché, l'ancien anesthésiste condamné hier à la perpétuité pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 mortels. Il annonce faire appel.
Les syndicats agricoles à Matignon ce matin, rendez-vous avec le Premier ministre.
En pleine crise et alors que vient d'être repoussée d'un mois la signature de l'accord avec le Mercosur, accord commercial avec les producteurs sud-américains qui cristallise une partie de la colère des agriculteurs et fait craindre une concurrence déloyale, sa signature reportée comme le demandaient la France et l'Italie, un début de soulagement pour Lux Messard, le vice-président de la FNSEA.
C'est une première victoire. On a réussi à faire plier Ursula von der Leyen, sachant que nous, ce qu'on veut, c'est le rejet total de ce texte. Sinon, le mois de janvier sera chaud. Les agriculteurs sont déterminés. On a trop eu des paroles en l'air. Aujourd'hui, il nous faut absolument des actes. Et c'est pour ça que ce rendez-vous avec le Premier ministre est indispensable. Parce que ce Mercosur, c'est bien plus qu'un accord. C'est l'agriculture qu'on ne veut pas dans nos assiettes. Et s'il faut bloquer la France, il faut revenir à Bruxelles pour que ce texte soit définitivement rejeté. On le fera.
Et le porte-parole de la Confédération Paysanne sera notre invité juste après ce journal. Il a rendez-vous aussi à Matignon. J'ai envie de vous entendre ce matin au 32-16. Satisfaits ou non les agriculteurs d'abord de la suspension de la signature de ce traité de libre-échange avec l'Amérique latine. Puis là, sur la mobilisation en général, est-ce qu'il faut une trêve de Noël comme le réclame la ministre de l'Agriculture? Vous nous le dites au 32-16 ce matin.
L'Union européenne qui a aussi débloqué hier 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine pour financer son effort de guerre l'année prochaine contre la Russie. Les 27 n'ont par contre pas réussi à se mettre d'accord sur les avoirs russes gelés. Il va redevenir utile de parler avec Vladimir Poutine, affirme Emmanuel Macron. À la recherche d'un compromis quasi introuvable, 7 députés et 7 sénateurs se réunissent ce matin en commission mixte paritaire pour tenter de se mettre d'accord sur le budget. L'Assemblée avait rejeté la partie recette du texte. Le Sénat avait adopté sa propre version. Aujourd'hui, il faudra donc trouver un texte qui convienne à tous. Romain Cluzel, c'est loin d'être gagné.
Oui, certains parlementaires sont pessimistes en vue de cette réunion. Des négociations se sont tenues en coulisses ces derniers jours en quête d'un compromis, mais les désaccords sont encore trop grands. Les sénateurs LR, par exemple, refusent toute augmentation d'impôts et réclament davantage d'économies. Des demandes incompatibles avec celles des socialistes et leur bienveillance est primordiale. Les relations se sont tendues ces dernières heures, mais de nombreux députés aimeraient trouver une solution. Un membre de la commission souffle qu'on en finisse et qu'on passe à autre chose. Et si aucun accord n'est trouvé aujourd'hui, l'entourage du Premier ministre fait savoir qu'il se prépare bien à présenter une loi spéciale, un texte transitoire pour que l'État puisse continuer de fonctionner à minima au 1er janvier, avant que les parlementaires reprennent à nouveau les discussions sur le budget.
Romain Cluzel, service politique d'RMC, le gouvernement qui annonce que tous les parents d'un bébé né à partir du 1er janvier prochain pourront bénéficier du nouveau congé parental, 1 ou 2 mois par parent, en plus des congés parentaux déjà existants.
Et vous savez, pour les enfants un peu plus grands, quelle était la conversation au dîner hier soir ?
Non.
C'est les vacances. Ça y est, le compte à rebours, là. Jusqu'à ce soir, 16h30, plus qu'une journée d'école ou de travail aussi, ouais, avant les vacances de Noël.
Et oui, dans moins d'une semaine, le repas du réveillon, l'ouverture des cadeaux, ce qui réjouit évidemment les enfants, un petit peu moins parfois les parents. Reportage à Rennes de Martin Lange.
Devant cette école rennaise, les élèves attendent avec impatience la dernière sonnerie de l'année 2025, à l'image de Victor, 7 ans.
J'ai hâte d'être en vacances parce que Noël arrive. J'adore quand on est ensemble en famille. Je vais retrouver mes cadeaux sous le sapin. C'est mes vacances préférées parce que c'est les vacances magiques.
Les cadeaux commandés au Père Noël sont sur toutes les lèvres. Maxime, 10 ans, a un avantage considérable sur tous ses petits camarades.
C'est mon anniversaire juste avant Noël, donc je vais avoir double dose de cadeaux. Je vais retrouver ma famille, dont mes cousins, puisqu'il y en a qui vivent à Paris, ça va être la fête.
Des vacances festives qui réjouissent les petits, parfois un peu moins les grands. Agathe, mère de 3 enfants.
C'est pas les plus beaux en plus, on a un petit bébé d'un mois et demi en plus, donc ça va être un peu sport, ouais. Parce qu'on est en famille, il y a beaucoup de stimulation, beaucoup d'excitation, des cadeaux, etc. Donc c'est pas tout repos, mais on se ressent différemment, on va dire.
Plus que le rythme de ces retrouvailles familiales, ce sont les préparatifs qui inquiètent Hakim. Il est père de 2 enfants.
C'est des questions qui se répètent continuellement. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et puis voilà. La préparation qu'il y a autour de tout ça.
Et tous ces parents l'avouent, le sourire de leurs enfants leur fera vite oublier tous ces tracas.
Le reportage de notre correspondant dans l'Ouest, Martin Lange.
Ça vous agace les vacances de fin d'année, de Noël, du Nouvel An? Les adultes surtout vous attend au 32-16 bien entendu. Il y a le quintet à l'hippodrome de Vincennes à 20h15.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer sa favorite, le 8, Diabelle et l'Outsider, c'est le numéro 10. Jolie Star, le 8 et le 10.
Merci Clara Gabi et n'oubliez pas qu'RMC vous couvre de cadeaux. J'allais oublier Maria Carré. Bonjour madame. On a notre calendrier de l'Avent et on vous gâte depuis le début du mois de décembre. On va pas s'arrêter, surtout pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une spéciale cash. Il y a de l'argent dans toutes les cases du calendrier tout au long de la journée. On va ouvrir la case du 19 décembre pour l'un ou l'une d'entre vous qui sera tiré au sort. Pour ça, il faut envoyer Noël par SMS au 732-16. Mais alors, faut pas traîner. Hein. On va bientôt tirer au sort. Vous envoyez Noël par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et Cyril est en ligne avec nous au 32-16 depuis les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour à tous.
Soyez le bienvenu sur RMC. Je vois que vous êtes ingénieur, mais vous avez réagi au témoignage de ce commerçant. Je résume l'affaire brièvement. Il a été volé et il a publié la photo, la vidéo des voleurs, justement, sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il pourrait être poursuivi. En tout cas, le voleur en question le menace. Pour vous, c'est le monde à l'envers, Cyril?
Oui, moi, je comprends pas. En fait, on a tendance un peu à pointer du doigt les gens qui font leur boulot, etc. Ou qui, je faisais un parallèle par message aussi avec les gens qui louent des logements et qui se font squatter et qui bataillent ensuite derrière. Voilà, je trouve ça un peu dommage.
Oui, c'est la même injustice pour vous. Alors, cela dit, il faut quand même rappeler qu'il y a une plainte. Il a déposé plainte, hein, ce commerçant, et que l'affaire remonte au 6 décembre. C'est très, très récent et il s'expose à un risque. Mais pour vous, ce serait incompréhensible qu'il puisse être condamné pour avoir publié ces photos.
Oui, voilà. Bon, après, il y a effectivement une loi. On doit respecter la loi, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est lui qui au départ est pénalisé des deux côtés, quoi. Hein. Il se fait voler et son commerce potentiellement est à risque si les gens continuent comme ça. Alors, et par ailleurs,
je précise juste, Cyril, mais parce que il y a pas de souci avec votre témoignage, je précise simplement que le voleur en question, le voleur présumé, a menacé de porter plainte. Que pour l'instant, il n'a pas porté plainte. Que c'est effectivement illégal de publier la photo, mais certains demandent un changement de la loi et on a ce débat-là justement ce matin au 32-16. Est-ce qu'il faut le permettre, ce name and shame, nommer, dénoncer? Merci Cyril en tout cas d'avoir composé le 32-16 ce matin en direct avec nous. Vous restez bien sur RMC dans un tout petit instant. L'accord de libre-échange avec l'Amérique latine, mais aussi la dermatose nodulaire contagieuse, la mobilisation agricole, stop ou encore, on en parle avec le porte-parole de la Confédération Paysanne. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur RMC, il est 7h42. L'annonce de la soirée, la signature de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur est reportée au mois de janvier. Écoutez Emmanuel Macron, le président de la République, cette nuit à Bruxelles.
Je redis, aujourd'hui nous n'y sommes pas, nous avons besoin d'avoir ces avancées pour que le texte change de nature, pour que on parle d'un autre accord. Je l'espère, on doit bouger sur ces sujets-là, le plus vite possible, mais il faut du concret.
Bonjour Stéphane Gallet.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la Confédération Paysanne. D'abord, première question, ce matin vous êtes content, c'est une victoire. Ou c'est juste reculer pour mieux sauter?
Bah, c'est un peu reculer pour mieux sauter. Et puis le discours d'Emmanuel Macron nous rassure pas, en fait.
Pourquoi?
Bah, parce qu'il dit qu'il est possible d'un autre accord. Peut-être en janvier, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas une opposition ferme de la France à l'accord de libre-échange. Qui je rappelle, le libre-échange, c'est pas le commerce. Le libre-échange, c'est la dérégulation des marchés. Et c'est ça que nous, sur lequel on s'oppose fermement depuis 25 ans. On travaille contre cet accord de libre-échange parce que justement c'est la dérégulation, c'est-à-dire qu'on fragilise les agricultures là-bas et les agricultures ici. Et c'est ça qui nous met profondément en colère et contre quoi on se bat tous
les
jours.
Pour vous, c'est pas d'accord du tout. Il n'y a pas de possibilité de l'améliorer à la marge, de négocier, je sais pas, des clauses miroirs.
Les clauses miroirs,
pas d'accord du tout.
Les clauses miroirs, c'est du flan. Les clauses miroirs, ça marche pas. Et en plus de quoi, ça couvre pas l'ensemble des différences qui nous séparent. Les droits sociaux, le pouvoir agronomique, etc. Il y a une profonde hypocrisie de la France et de l'Europe par rapport à ces différences. Je vous le disais tout à l'heure, on produit ici des pesticides interdits chez nous, qu'on exporte là-bas pour pouvoir mieux nous concurrencer avec des produits qui vont venir de là-bas.
C'est-à-dire que les produits que vous n'avez pas le droit d'utiliser en agriculture française, eux les utilisent, mais en plus c'est nous qui les produisons,
oui,
c'est ça que vous dites.
Oui, c'est une hypocrisie totale. Donc nous on dit il faut pas une politique du moins 10 ans, il faut une politique du mieux 10 ans, et on fait en sorte d'avoir des marchés équilibrés pour que chaque paysan dans le monde puisse vivre de son métier.
Mais on est d'accord que les partisans du traité, il y en a d'abord, y compris chez les agriculteurs, certains ont un intérêt à ce libre-échange. Il y a l'industrie allemande qui pousse très fort pour ce traité de libre-échange avec l'Amérique latine. Ils vont pas lâcher comme ça. Vous vous dites pas qu'il faut mieux négocier. Non, c'est pas d'accord du tout, même en janvier, même en février, même en mars.
Il y a des enjeux terribles avec l'agriculture. C'est pas que des enjeux économiques, c'est aussi des enjeux de société. Vous comprenez que l'agriculture, c'est d'une importance terrible par rapport aux enjeux auxquels on fait face, comme le climat, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, mais aussi la sécurité alimentaire. On peut pas troquer l'alimentation et la santé des gens, des citoyens, des citoyennes, contre des voitures, contre du service. Ça a pas de sens, en fait. Ça a pas de sens. Et je rappellerai quand même une chose. C'est que là, ce qui se passe, c'est vraiment antidémocratique, hein. Parce que tous les citoyens, et ça a été porté d'ailleurs par les parlementaires plusieurs fois à l'Assemblée, ne veulent pas de cet accord. Donc là, je comprends pas la posture d'Emmanuel Macron qui ne porte pas la voix des Français.
Alors, est-ce que c'est de nature à, quand même, ce report, à faire, à vous faire garer les tracteurs, si j'ose dire, les blocages qu'on voit sur la route? Il y a la dermatose nodulaire contagieuse, c'est le débat numéro un. Il y a cet accord de libre-échange qui est venu aussi dans le débat et dans le calendrier. Vous rencontrez Annie Genevard aujourd'hui?
Non, je ne rencontre pas Annie Genevard aujourd'hui.
Pas vous-même?
Si, mais je rencontre le Premier ministre.
Le Premier ministre, pardon, c'est à Matignon que vous allez.
Je pense
c'est à Matignon.
Genevard, elle est un peu
non, vous rencontrez
à côté du sujet.
Vous allez à Matignon, vous rencontrez le Premier ministre aujourd'hui. Annie Genevard, elle vous demande dans la presse ce matin une trêve de Noël.
Une trêve de Noël,
bah, pour les blocages, bah, pour les transporteurs routiers qui vont livrer pour le Père Noël.
Je vais lui le dire, la colère, c'est elle qui l'a créée par sa méthode, par son entêtement. Donc les clés sont dans ses mains. En fait, si elle veut qu'on arrête la mobilisation, on lui a donné les revendications qu'on porte depuis des mois, c'est-à-dire accès à une vaccination élargie et stop à l'abattage total qui est en train de tuer les paysans et les paysannes et les éleveurs et les éleveuses.
Cette question qui divise y compris les agriculteurs, hein, redisons-le, cela dit, d'un mot, sauf un recul du gouvernement, vous pourriez bloquer Noël.
Bah oui, pas que Noël d'ailleurs, hein, parce que je rappelle qu'il y a le salon de l'agriculture au mois de mars. Hein. Donc il va peut-être falloir qu'ils entendent les paysans, les paysannes. On est excédés en fait. On n'en peut plus de cette surdité. Et je vous le dis, la surdité, elle a aussi un nom, ça s'appelle la cogestion avec la FNSEA. Et donc ça, c'est plus possible en France que cette cogestion avec la FNSEA, qui défend les intérêts de l'agro-industrie, passe au-dessus de l'intérêt général des citoyens, des citoyennes, des paysans, des paysannes, de leur revenu, de notre revenu.
On entend souvent, pour le coup, la FNSEA, qui est le premier syndicat agricole, il faut quand même le redire, hein, c'est lui qui a gagné les élections, mais il y a d'autres syndicats, la Confédération paysanne, la coordination rurale en l'occurrence, qui sont mobilisés plutôt contre la FNSEA.
C'est pas aussi simple.
Compris.
Vous dites qu'ils ont gagné les élections, c'est pas aussi simple. En fait, la force agricole en France syndicale, c'est la coordination rurale, confédération paysanne associée.
En tout cas, c'est
ici
vous
sur ce dossier, mais
vous qui êtes à l'œuvre sur le terrain. En tout cas, Stéphane Gallet, merci beaucoup.
Merci à vous.
Porte-parole de la confédération paysanne. On aura l'occasion d'en reparler. Hein. Clairement, vous avez compris que c'est pas fini, même pendant les fêtes. Il est 7h47. Et dans un instant, de débat voix de droite, voix de gauche avec Charles Consigny et Cécile Duflot. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Florent Pagny, tiens, le chanteur français qui fait l'éloge du président argentin d'extrême droite, Javier Milei. Est-ce qu'il faut un Milei à la française? Je vous pose la question dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h48 sur RMC, RMC Story. Le bonus ce matin, Victor, vous nous présentez un documentaire exceptionnel autour d'un record du monde.
Un documentaire RMC et un record du monde français.
Je pourrais faire cette marathon en France pour me dépasser. Mais ça serait pas les majors, ça serait pas les plus grands marathons du monde.
Et celui que vous entendez, c'est Dorian Louvet, 36 ans, ancien candidat à Koh-Lanta, le premier homme au monde à avoir couru les 7 marathons majeurs la même année, en moins de 2h30 de moyenne.
7 marathons, c'est quelque chose qui est finalement pas normal.
Ah, il risque tout, il risque la fatigue mentale.
Ah, bien sûr, ça va, mais les jambes, mon gars, c'est vrai.
Et on peut le croire, hein, de Tokyo jusqu'à Londres et pour finir jusqu'à New York, près de 295 km en 2025. Dans ce film diffusé demain matin sur RMC Découverte à 8h30, on plonge dans son entraînement et aussi ses moments d'émotion.
Pourquoi je vais y arriver ?
Parce que tu cours vite.
Ah, oh, c'est gentil ça.
Et c'est aussi à retrouver sur RMC BFM Play.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Il est 7h50 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. Le débat, voix de droite, voix de gauche. À droite, Charles Consigny. Bonjour Charles.
Bonjour.
À gauche, Cécile Duflo. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Un peu de musique. Alors écoutez, figurez-vous que Florent Pagny fait l'éloge du président argentin d'extrême droite, Javier Milei. Je cite, il a réussi à stabiliser l'inflation. Il a viré la moitié de ceux qu'on appelle les employés publics qui venaient prendre le salaire mais qui ne venaient pas bosser. De 70 ministères, il en a fait 9 et il leur a dit, il n'y aura pas de voiture de fonction, pas de première classe, vous allez prendre le métro et aller bosser. Même le président argentin s'est réjoui de ce soutien du chanteur français qui vit une partie de l'année en Argentine, rappelons-le. Qu'en pensez-vous, Cécile, Charles ? Est-ce que la France a besoin d'un Javier Milei ? Cécile ?
Moi, je préfère le Florent Pagny de 2023, qui explique à quel point le système de santé français est bon, lui a sauvé la vie et qu'il est bien soigné en France. Parce que le système de santé argentin, il a été tronçonné par Javier Milei. Et donc, si vous voulez, il y a un truc qui est quand même très gênant dans cette idée que ceux qui ont pu bénéficier de système, je pense que Florent Pagny, moi je le connais, hein, j'étais fan du top 50 quand il était numéro 1 au top 50, il a été intermittent du spectacle, il a la SACEM, la Société des droits d'auteur. En Argentine, elle a été tronçonnée. Donc il y a un truc qui est quand même vraiment gênant. Voilà.
Dans la prise de position de Florent Pagny, Charles, pour en revenir à Javier Milei, et vous l'avez évoqué, c'est l'homme de la tronçonneuse, c'est le président argentin. Si on fait un dixième de ce que propose Milei, vous mettez le feu au pays, Charles.
D'abord, je salue Florent Pagny, qui est un grand musicien, un grand artiste et un grand analyste politique. Je pense qu'il a tout à fait raison de souligner le succès de Javier Milei. Moi, c'est un homme politique, vous l'avez décrit comme d'extrême droite en présentation. Je ne le crois pas d'extrême droite. Je pense qu'il prend des mesures extrêmement courageuses pour son pays. Il est d'ailleurs soutenu massivement par les Argentins, et il a fait repartir la croissance argentine qui, selon les derniers chiffres, est autour de 5%. Je pense qu'on serait quand même assez content en France d'avoir 5% de croissance. Il a fait chuter l'inflation, il a pris des mesures très courageuses de réduction des dépenses publiques, il a effectivement viré des gens, il a viré, je crois, un tiers des hauts fonctionnaires, et je pense que c'est ce qu'on devrait faire en France.
Mais je vous ai demandé, si on faisait ça en France, vous savez dans quel état serait le pays en deux semaines ?
Oui, mais en même temps, vous voyez dans quel état est le pays aujourd'hui ? On a plus de 3500 milliards de dettes publiques. On a une fonction publique qui est pléthorique. On a continué à recruter des dizaines de milliers de personnes dans le secteur public sous Macron, qui était soi-disant un président libéral. On est déclassé par rapport aux autres pays. Notre voix n'est plus écoutée dans le monde. Donc moi, je préfère quelques manifs par rapport à des mesures courageuses que ne rien faire et ne pas avoir de manif.
Alors, cela dit, sur le bilan de Milei, est-ce que c'est pas le problème qu'on peut avoir de ce côté de l'Atlantique, si j'ose dire, quand on s'oppose à ce genre de profil? Mais je pense même, on a eu le cas, l'exemple italien. Il y a des résultats. Je pense à Meloni, oui. À Milei. Il y a des résultats.
Enfin, il n'y avait pas de résultats jusqu'à ce que les États-Unis et Trump décident de sauver Javier Milei. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le peuple argentin et le pays même est totalement dépendant des États-Unis. Ils ont signé un accord dans lequel ils se sont mis pieds et poings liés pour donner tous leurs matériaux et toutes leurs richesses naturelles en échange d'une liberté totale pour les entreprises américaines de vendre sur le territoire argentin, donc aucune possibilité de monter en gamme leur production, donc c'est très court-termiste. Et puis effectivement, on peut avoir tendance à tenir le discours de Charles, mais comme ça fait maintenant quelques mois qu'on est là, on peut aussi faire un discours sur qu'est-ce qui se passe avec le permis de conduire. On n'arrive plus à passer le permis de conduire. Bah oui, il n'y a plus d'inspecteurs. Qu'est-ce qui se passe avec la vaccination? C'est pas un problème de dose, vous l'avez dit à longueur de journée. C'est un problème de personnel pour pouvoir vacciner les vaches parce qu'on a fait énormément diminuer les capacités. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de tension très forte entre la réalité et les besoins de services publics. Et j'insiste sur Florent Pagny parce que Florent Pagny, je pense que c'est le résultat d'ailleurs d'une carrière à la française. Il vit et très bien. Et c'est très bien pour lui. Moi, j'ai écouté ses chansons, sauf celles que vous avez mises en introduction, avec les droits d'auteur, collectés par un système collectif qui permet que le moindre petit bar qui passe une chanson de Florent Pagny, Florent Pagny touche de l'argent. Florent Pagny, il a été intermittent du spectacle quand il a commencé sa carrière. Il n'a pas commencé par la musique. Donc, si vous voulez, quand on voit dans quel système on fonctionne, et surtout, je le dis, et c'est là où c'est paradoxal, c'est qu'il est soigné, il l'a dit lui-même, et il a bien fait de le dire.
En France, par le service public.
Par le service public et par des médecins et des infirmières et des aides-soignantes, donc des fonctionnaires, monsieur Consigny, formidable. Et souvent, on a vu des gens se rappeler à la réalité de ce que ça veut dire, un système protecteur de tous ses habitants au moment où ils sont malades. Et ce serait bien qu'ils ne l'oublient pas maintenant qu'il est guéri. Et je m'en félicite.
Votre soutien, il tient uniquement sur le côté libéral, Charles, ou sur le personnage en lui-même, le côté tronçonneuse? Parce que vous m'avez repris sur l'extrême droite, mais effectivement, c'est un libéral. Mais c'est aussi un anti-avortement, c'est aussi un homme qui nie le réchauffement climatique, c'est aussi un homme qui est pour libéraliser le port d'armes. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont avec Milei, quand même.
Oui, mais d'abord, convoquer l'hôpital à chaque fois qu'on veut défendre la chienlit en France de notre administration, je trouve ça un peu facile. L'hôpital, c'est le seul secteur dans lequel tout le monde est d'accord pour payer des impôts. Donc, il faut arrêter de convoquer l'hôpital à tout propos.
Mais l'éducation...
Pour défendre une gabegie invraisemblable... à tous les étages de l'État, il faut bien voir ça. Je veux dire, la France, c'est une gabegie invraisemblable, un gaspillage d'argent public colossal à tous les étages de l'État, que ce soit dans la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, que ce soit les retraites que les gens prennent trop tôt, la justice où le temps de travail doit, à mon avis, être augmenté, où il y a un certain nombre de litiges qui sont pris en charge qui ne devraient pas l'être, où il y a une espèce d'open bar sur tout un tas de sujet. Il y a beaucoup de choses à faire évoluer, que ce soit dans la justice, dans la santé, dans la culture, dans l'audiovisuel public. Il y a une commission d'enquête en ce moment qui est très intéressante, qui met au jour des conditions de travail totalement délirantes, 14 semaines de congés payés par an. Enfin, je veux dire, il y a du travail à faire. Donc moi, Milei, il me plaît par son courage que sur certains sujets, oui, on va pas parler indéfiniment de l'avortement. Il a pas aboli l'avortement en Argentine, aux dernières nouvelles. Vous trouvez pas qu'on était ridicule, nous, quand on a constitutionnalisé?
Mais non, on était
Madame
Brown-Pivet
s'est prise pour Simone Veil.
On va relancer un autre débat là-dessus.
Grotesque.
Très bien, mais de toute façon, j'avais pas prévu de vous mettre d'accord.
Donc, moi, ce que j'aime de Milei, c'est qu'il se focus sur des sujets urgents et importants pour les gens.
Et pas que l'avortement, c'est pas important. Ça tue des femmes.
Aux journalistes de gauche.
C'est trop triste de dire ça.
Cécile Duflo, Charles Consigny, c'était le débat voix de gauche, voix de droite. Merci à tous les deux. Dans un instant, la météo et le journal de 8h. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h sur RMC, RMC Story. Un excellent réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal à 8h avec Quentin Vinet. Bonjour mon cher Quentin.
Bonjour à tous. Des agriculteurs devant la maison des Macron ce matin au Touquet. Mobilisation contre le Mercosur malgré le report avant des réunions ce matin à Matignon. Et les blocages qui, vous le savez, continuent dans le sud-ouest le jour des départs en vacances. La plateforme Chine va-t-elle fermer en France? On aura la réponse de la justice aujourd'hui. Et les contrôleurs avec des caméras piétons ce matin à la SNCF et la RATP, c'est la nouveauté du jour.
Des agriculteurs manifestent ce matin devant la maison du couple Macron au Touquet.
Oui, on vous dit depuis ce matin sur RMC que la FNSEA, le premier syndicat agricole, appelle à poursuivre la mobilisation contre le traité avec les pays du Mercosur malgré le report, le répit qui a été accordé hier soir à Bruxelles. Et bien visiblement, j'ai été entendu puisqu'une cinquantaine d'agriculteurs comme Benoît Tillier sont depuis très tôt ce matin devant la maison des Macron.
On est arrivé ce matin à 5h30 devant la résidence du président de la République pour faire part de notre ras-le-bol général. L'idée, c'est de mettre un coup de pression, clairement. Hier, à Bruxelles, il y avait une mobilisation contre le Mercosur. On a appris, donc, à la suite de cette mobilisation qu'il était reporté d'un mois. Mais notre objectif, il est clair, c'est qu'il n'existe plus. C'est inacceptable, clairement. Il nous prend plus de moins que rien. Et ben, on est venu lui montrer que c'était pas le cas et qu'on l'avait à l'œil.
Alors, vous avez bien compris qu'il y a une double colère agricole. Hein. Il y a le Mercosur, dont la date de signature du traité a été repoussée à janvier sous la pression à Bruxelles de la France et l'Italie. Le temps de changer la nature du texte, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron durant la nuit. Emmanuel Macron qui trouve ce texte mauvais pour les agriculteurs français. Et puis, il y a toujours la question des abattages de troupeaux en cas de maladie bovine. Là-dessus, les positions n'ont pas changé cette semaine. La mobilisation continue. Les syndicats agricoles vont être reçus les uns après les autres à partir de ce matin. Ça a commencé non pas longtemps, à 8h30 à Matignon. Reçu par le Premier ministre Sébastien Lecornu, Thomas Becker du service politique à RMC en direct ce matin. Question, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir leur dire ?
L'objectif principal, hein, clairement, c'est de faire redescendre la pression. Sébastien Lecornu va devoir, comme il le fait sur le budget, tenter de trouver une voie de passage. Il y a d'abord l'urgence, l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Ce matin, il va rappeler la stratégie du gouvernement, abattage des troupeaux contaminés et vaccination accélérée. Le gouvernement a d'ailleurs mobilisé des vétérinaires retraités et de l'armée. Face au Premier ministre, des syndicats très remonter, surtout la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale qui attendent des concessions pour lever les blocages. Alors faut-il y voir un premier geste ? Hier soir, le ministre Laurent Panifousse, qui accompagnait Sébastien Lecornu à la rencontre d'éleveurs en Ariège, ne s'opposait pas à une évolution du protocole une fois que tout le cheptel sera vacciné. Un comité scientifique pourrait se réunir prochainement, une façon pour le gouvernement d'associer les éleveurs et d'apaiser la colère à moins d'une semaine de Noël.
Oui, alors le gouvernement à ce sujet dit ce matin qu'il ne tolérera plus de nouveaux blocages. Il y a d'ailleurs un campement qui a été évacué hier soir sur l'autoroute A20 au sud de Cahors selon la préfète du Lot. Mais les autoroutes restent quand même fortement perturbées ce matin dans le sud-ouest, notamment la 63 et la 64 qui longent les Pyrénées et permet d'accéder aux vallées des stations de ski. Et il ne vous a pas échappé que c'est aujourd'hui, eh bien, le début des vacances scolaires. On s'en inquiète à Bordeaux, nous dit le correspondant d'RMC Pierre Bourgès.
Malgré le soutien qu'elle apporte aux agriculteurs, Marie, qui part skier dans les Pyrénées la semaine prochaine, a du mal à comprendre ce choix.
Autant les routes et tout, je peux être patiente, mais j'avoue que c'est mes seules vacances avec mes parents. Je pars reste 3 jours parce que je travaille le 30, donc ça m'embêterait un peu de ne pas pouvoir aller faire du ski. Avec eux, quoi. Je suis pas sûre que ce soit les bonnes personnes qui soient bloquées, en tout cas.
Un constat partagé par Maxime, qui profite aussi de Noël pour aller skier avec ses enfants.
Je pense que je serai un petit peu en colère, quand même, si j'arrive pas à monter. Si je suis ralenti, c'est pas très grave, mais si on peut pas y aller, ça va être embêtant. C'est-à-dire que là, je pense que les assurances fonctionnent pas trop.
Ces blocages pourraient coûter très cher aux stations qui s'attendaient à réaliser un très bon début de saison. Laurent Garcia, président des domaines skiables des Pyrénées, craint une baisse du chiffre d'affaires sur la période des fêtes de fin d'année.
À l'échelle des vallées des Pyrénées, c'est pas loin de 20-30% des recettes de l'hiver. S'il y a des difficultés à venir, je pense qu'il y aura au milieu des gens qui vont certainement se désister. On va tourner effectivement à bas régime et donc je suis inquiet effectivement sur les conséquences.
Conséquences déjà concrètes. Dans sa station à Péragude, les embauches de saisonniers supplémentaires prévues pour les fêtes ont pour l'instant été gelées.
Je précise que c'est une journée sur la route, journée classée orange dans le sens des départs, c'est même rouge en direction des Alpes.
Ouais, ça peut être pire, hein. Ça peut être pire selon les régions, selon les départements, selon les blocages. Alors on avait quand même la ministre de l'Agriculture dans la dépêche du midi qui demandait ce matin gentiment une trêve pour les fêtes. Là maintenant, on a la porte-parole du gouvernement qui dit nous ne tolérerons plus de nouveaux blocages. Est-ce que c'est de nature à faire garer les tracteurs ou plutôt à mettre de l'huile sur le feu ? Ça, c'est à vous de nous le dire au 32-16, bien sûr, ou sur le WhatsApp RMC.
L'autre sujet du sommet à Bruxelles, en plus du Mercosur, c'était l'Ukraine. Il était question d'utiliser les avoirs russes. Finalement, ça se fera pas, faute d'accord sur ce sujet également. Il a été décidé de prêter 90 milliards d'euros aux Ukrainiens. Emmanuel Macron affirme qu'il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que d'autres le font, estime le président, sous-entendu les Américains, qui mènent en ce moment les pourparlers. Il y en aura de nouveau aujourd'hui, ça se passe en Floride. Donald Trump fait d'ailleurs pression en appelant l'Ukraine à bouger rapidement, c'est le terme employé dans les négociations pour mettre un terme à la guerre.
Autre dossier brûlant du moment, celui de la plateforme Chine.
Alors que le nombre de petits colis chinois explose en France, 5 fois plus en 3 ans, on en a parlé durant la semaine, la France veut fermer la plateforme après le scandale des poupées pédopornographiques qui étaient vendues sur Internet. Eh bien, c'est aujourd'hui que la justice va se prononcer sur cette suspension de 3 mois. Mais alors, Victor Joannin pour RMC, on peut déjà dire que ça paraît improbable.
Oui, même l'État a reconnu lors de l'audience que la suspension de la totalité du site serait disproportionnée. Mais la justice pourrait décider que la marketplace soit strictement contrôlée avant qu'elle ne rouvre pour éviter la présence d'autres produits illicites à l'avenir. Une marketplace que Shein a suspendue rapidement de son plein gré après la découverte des poupées pédopornographiques. Or, cette partie de la plateforme est importante dans sa stratégie de vente. Même si Shein ne touche qu'une commission sur les articles qui y sont vendus par d'autres fabricants, cette marketplace permet d'attirer une part importante des clients vers son offre pléthorique de vêtements et sa suspension explique sans doute, au moins en partie, les difficultés de Shein avec une chute des ventes de 45% dans les semaines qui ont suivi, selon une étude de l'application de shopping Joco.
Déclaration du matin, Rachida Dati, elle a toute sa place au gouvernement. C'est ce que dit la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, à l'instant. Elle le dit parce que les domiciles, le ministère et la mairie à Paris de Rachida Dati ont été perquisitionnés hier pour des faits supposés de corruption. La ministre de la Culture qui est soupçonnée d'avoir perçu 290 000 euros d'honoraires de GDF Suez quand elle était députée européenne sans en avoir déclaré la provenance au Parlement européen. C'est une des nouveautés du jour. Les contrôleurs peuvent désormais vous filmer dans les trains à la SNCF, dans les transports en région parisienne, à la RATP. Quelques 11 000 contrôleurs qui peuvent désormais porter une caméra piéton et filmer lorsqu'ils sont en service, notamment quand ils sentent qu'une situation peut dégénérer, Lucas Laubert.
Une caméra bien visible sur le torse des contrôleurs déclenchée manuellement en cas de tension. Hugo est assez sceptique.
Je me sens pas forcément 100% à l'aise avec ce sujet. Je pense que c'est un élément qui peut générer un stress chez l'usager.
Le but est de protéger les agents. En cas de danger, ils devront avertir la personne contrôlée de l'activation de la caméra. Vincent n'y voit pas de problème, mais il déplore qu'un tel équipement devienne nécessaire.
C'est plutôt un constat d'échec. Un contrôleur, c'est une sorte de figure d'autorité. C'est dommage d'en arriver là.
Cette caméra rassure tout de même certains voyageurs, comme Ludivine.
C'est une très bonne solution parce qu'ils n'ont rien comme protection, ils n'ont pas d'armes. Des fois, c'est vrai que les fraudeurs haussent beaucoup le ton.
Pendant les Jeux Olympiques l'année dernière, des contrôleurs avaient testé cet équipement. Une vraie réussite pour Cyril Manac. Selon le secrétaire général adjoint de Force Ouvrière au groupe RATP, la caméra permet de documenter les agressions, mais surtout d'en éviter.
Cette violence n'avait pas dévolu aux voyous, mais aussi aux madames et aux monsieur tout le monde. Et donc, chez cette tranche de la population, la personne avait regardé à deux fois avant de déborder. Ça déclipse beaucoup de situations.
Le port d'armes non létal par les agents de sécurité comme le taser reste lui interdit car censuré par le Conseil constitutionnel.
Bon, et puis je vous signale que c'est un week-end de Coupe de France qui commence en football avec les 7 premiers 32e de finale qu'on vivra ce soir sur RMC. Ça ressemble un peu à la fête des voisins. On a tout un tas d'affiches régionales, par exemple Brest à Avranches, Guingamp contre Laval, Montpellier au Canet-en-Roussillon. Il y aura aussi Lens contre les voisins de Fény-Aulnois avec 7 anciens Lensois dans l'équipe de Fény.
Attention, Brest et Avranches, il y en a un qui est en Normandie, un qui est en Bretagne quand même.
Oui, mais ils sont voisins.
Qu'ils vont, le gagnant à Mont-Saint-Michel. Et le beurre salé.
Génial.
On fait comme ça. Merci Quentin Vidé. C'est le journal de 8h, la mobilisation agricole qui continue. Et Thomas, qui est en ligne avec nous depuis Melun, en Seine-et-Marne. On est dans un département francilien, mais un département franchement agricole, on peut le dire, la Seine-et-Marne. Bonjour Thomas.
Bonjour tout le monde.
Et vous avez appelé le standard. Vous avez dit blocage ou pas, Noël ou pas, je soutiens les agriculteurs, c'est ça Thomas?
Absolument. Moi, je dois me rendre dans le centre de la France pour Noël. Je pense que je le ferai pas pour rejoindre ma famille, mais je pense que je le ferai pas parce que je sais pas si le blocage va persister ou pas. Mais voilà, moi j'en veux pas aux agriculteurs parce qu'il faut pas oublier que c'est grâce à eux qu'on mange aujourd'hui. Moi j'achète français depuis des années et...
C'est un souci que vous avez quand vous faites vos courses de soutenir l'agriculture française. Mais alors, Thomas, dans la mobilisation, il y a les blocages de route. Là ce matin on apprenait quand même qu'il y a des tracteurs de la FNSEA qui manifestent devant la maison du couple Macron au Touquet. Vous soutenez toutes les initiatives Thomas?
Absolument, à 100%.
À 100%. Même si vous mettez, 12 heures à aller dans le centre de la France. Très bien.
À 300% même.
Et même s'ils ont obtenu un report de la signature du traité de libre-échange. Quoi qu'il arrive, vous êtes en soutien.
Absolument, je soutiens à 100%.
Là, c'est entendu, le message est passé Thomas. Merci beaucoup au 3216. On continue d'en parler, on continue d'accueillir vos témoignages et vos réactions au 3216 sur le WhatsApp RMC, le 0612 424 424. On passe à l'écho.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Lechypre avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Les futurs EPR, les réacteurs nucléaires de nouvelle génération, oui, vont coûter beaucoup plus cher que prévu.
Ça vous surprend ?
Pas toujours, non. Il y a toujours une petite surprise derrière.
Il faut reconnaître.
Il y a l'addition et la contradiction.
Voilà, EDF nous a quand même habitués à ne pas vraiment maîtriser ses coûts. On va rappeler que Flamanville, le premier EPR français, a été livré en 2024 avec 17 ans de retard. Il a coûté 24 milliards. Au lieu d'en coûter un peu plus de 3, les EPR d'Inkley Point au Royaume-Uni, 50 milliards de dérapage par rapport aux prévisions initiales. Et là, rebelote, j'ai envie de dire, puisque EDF nous dit que les 6 EPR 2 dont la construction devrait démarrer à partir de 2028-2029 coûteraient désormais 73 milliards, soit une augmentation d'environ 40% par rapport au devis initial présenté en 2021.
Alors 73 milliards, C'est votre dernier mot ou ça va encore augmenter, Emmanuel?
Alors, bon, est-ce que le budget, cette fois-ci, va être tenu? Alors, EDF nous dit, sur les 73 milliards, bon, il y en a 50 qui sont des frais incompressibles. C'est le chantier, c'est le génie civil, c'est vraiment les frais de construction. Et puis, il y a 23 milliards maximum, nous promet EDF, de coûts variables, à savoir bah, les aléas techniques, l'inflation de tous les composants, ou bien les délais, sachant que le design de ces futurs réacteurs n'est pas encore finalisé. Mais la clé, ce sera évidemment de tenir le calendrier. Si le calendrier est respecté, les dérapages seront contenus. Et donc, EDF a quand même des atouts dans sa manche cette fois-ci pour tenir le calendrier. Déjà, l'effet de série, hein, EDF compte sur l'enchaînement des chantiers des 6 réacteurs, bah, finalement, pour apprendre et réduire les coûts au fur et à mesure. L'objectif, c'est de réaliser 15% d'économie dès le deuxième réacteur, puis 10% sur le troisième pour arriver à 12 milliards le réacteur. Hinkley Point, c'est 20 milliards, donc c'est très ambitieux. Mais une autre nouveauté, c'est que EDF a décidé de s'inspirer de ses partenaires chinois. Hein. Il faut se rappeler que c'est EDF qui avait aidé les Chinois à construire leur premier EPR. Ouais. Les Chinois ont très bien réussi, eux, à construire leurs EPR. Et donc maintenant, on s'appuie sur les méthodes chinoises. On va chercher conseil auprès des Chinois pour réussir à construire
nos propres EPR.
Oui, mais
on progresse, mais on a perdu un peu de savoir-faire en route.
Le savoir-faire, c'est délocaliser lui.
Ouais, ouais. Alors, est-ce que, parce que c'est quand même la question qui intéresse aux auditeurs, ouais, et monter le son, est-ce que l'électricité à la fin va nous coûter plus cher?
Alors, aujourd'hui, la Commission de régulation de l'énergie nous dit que le coût du nucléaire actuel, c'est 60 euros le mégawattheure. Les premiers nouveaux réacteurs, on sera sans doute autour de 130 euros le mégawattheure, donc plus du double, c'est à peu près le prix de Flamanville. Et puis EDF bah, nous dit qu'il y aura des économies d'échelle qui permettront une réduction des coûts de 30% entre la première tranche qui sera construite à Penly et la dernière qui sera construite à Bugey pour arriver à 70 euros le mégawattheure. 130, 70, tout ça nous fait une moyenne à peu près de 100 euros le mégawattheure sur plusieurs années, donc contre 60 aujourd'hui. Et quand je vous aurais dit que 85% de l'électricité qu'on consomme, c'est de l'électricité nucléaire, oui, il n'y a pas de doute, tout ça se répercutera sur notre facture d'électricité.
Merci Emmanuel Le Chypre. Il est 8h13 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, c'est Arnaud Demange qui nous rejoint. Puis à 8h30, n'oubliez pas Laurent Neumann, ça c'est le face-à-face sur RMC et BFM TV, avec un homme qui connaît par cœur les arcanes de la négociation à Bruxelles. C'est l'ancien commissaire Thierry Breton. Juste après, on retrouve la semaine face à Canteloup, ça c'est à 8h50. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours Demange.
Tous les jours. Donc aujourd'hui aussi, tous les jours, Arnaud Demange, bonjour mon cher
Exactement.
Arnaud.
Exactement, bonjour Mathieu, bonjour les amis. En ce moment, vous le savez, on ouvre les petites fenêtres du calendrier de l'Avent du LOL. Alors vous voulez la blague du jour?
Allons-y.
Attention, ça va dénoncer, attention, tenez-vous prêts. Vous savez comment on fait une tarte tatin?
Non.
Tu la mets dans le four, puis tatin.
Voilà.
Liberté! Charles de Gaulle s'est battu pour qu'on puisse dire des choses comme ça à la radio, Mathieu. Liberté!
Ah, je le dis à la radio, pardon. Oui. Hein. Chemise à bouton pression arrachée avec écrit liberté
dessous. Faut aller au bout du running.
Le fémur du LOL, quoi.
Bref, c'est bientôt Noël. Et Mathieu, les amis, si vous aimez les sports d'hiver, sachez que la région Île-de-France a ouvert un téléphérique entre Villeneuve-Saint-Georges, ouais, et Créteil. Vous avez vu ce truc-là? Un téléphérique comme au ski, mais sans le ski, et à Créteil. C'est vrai que quand tu passes à côté de Créteil, tu te dis, c'est beau, hein, mais vu de haut, ce serait magnifique. Eh ben, c'est un rêve qui se réalise. C'est que des tours dans ce coin. C'est les anciennes banlieues communistes qui adoraient Trotsky dans les années 50. D'ailleurs, vous le savez, Trotsky tue le ski.
Oh, il y a une deuxième balle nulle dans le
Donc c'est pour fêter Noël. Donc ce téléphérique a été créé car il y a du trafic routier, il fallait désengorger les routes. C'est dû au fait que Créteil est à côté de Paris, hein, c'est tout. Parce que sinon, en soi, Créteil, tu gardes la même ville et tu la déplaces dans le Limousin, je suis pas sûr qu'il y ait des bouchons pour y aller. On dit souvent voir Paris et mourir. Bon, bah là, c'est voir Créteil et avoir envie de passer à l'acte. Créteil, c'est le Garfunkel des villes. Bref, ce téléphérique, c'est bien pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller au ski. C'est cool pour eux. Ils peuvent payer un tour à leurs enfants, leur dire, tu vois, quand tes camarades de classe reviendront de Courchevel, tu pourras leur dire, tu sais, en Godefroy, moi aussi, je suis allé au ski cette année à Créteil. Ouais, il y a même pas de poudreuse à Créteil. Si, il y a plein de poudreuses dans tous les immeubles. À propos de drogue, Emmanuel Macron a annoncé une hausse de
la transition acrobatique d'un de manche.
C'est la fin de l'année, allez, on se lâche. Emmanuel Macron a annoncé une hausse de l'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogue. Ça passe de 200 à 500 euros. On change de stratégie. Au départ, on faisait dans le tout répressif. On envoyait les dealers en prison. Mais c'était un peu con parce que quand ils débarquaient en prison, il y avait tous leurs potes. C'est comme si on les envoyait en boîte de nuit, tout frais payé. Franchement, on les punirait plus si on les envoyait au cinéma voir un film français. Donc là, on va se faire un peu de thune sur les amendes. Mais à ce train-là, autant légaliser et taxer. Louis Sarkozy proposait ça l'autre jour chez nous. Légalisons. Les dealers sont pas d'accord. Mais bon, ils vont faire quoi? Une manif? Ils vont faire comme les paysans, ils vont brûler leur culture devant la préfecture. Olé. Avec la fumée que ça va dégager. Je garantis que la légalisation, elle ira encore plus vite. Allez les gars, on signe le décret. Buffalo Soldier.
Netflix va racheter le géant du cinéma Warner pour 83 milliards de dollars.
Oui. C'est 3 fois le budget du cinéma français depuis la création par les frères Lumière. Hein, vraiment. Et alors, ça inquiète les professionnels du cinéma qui craignent que les films soient juste pensés pour plaire à l'algorithme. Et merci, mais non merci, quoi. Quand tu vois ce qu'il te propose, l'algorithme, t'as pas envie que le cinéma...
Non,
Instagram, en ce moment, il me propose que des vidéos de types qui nettoient des tapis. Vous l'avez ça? Et des vidéos de gens qui mettent des objets sous des presses hydrauliques. J'ai ça tout le temps, je m'en fous. C'est ça le genre de choses que tu veux voir au cinéma? Des vidéos en intelligence artificielle, comme on en voit plein Twitter, avec des stars qui marchent à côté de leur version de eux-mêmes à 19 ans. Vous l'avez celle-là? La tronche des Césars, ça va être quelque chose, hein. Et pour la meilleure vidéo de gens qui découpent des gâteaux en trompe-l'œil, les nommés sont Julie Cupcake, Émilie Pâtisserie et Mélissa Muffin. La gagnante est... Mélissa Muffin !
Ouais ! Bravo !
Mélissa Muffin qui prend sa revanche après avoir perdu l'année dernière, battue par une vidéo de chien qui attrape des saucisses au ralenti.
Moi, je peux regarder ça.
Ouais, ben, ça des heures. Et elle a eu l'intelligence de se diversifier puisqu'elle a aussi participé à des vidéos de gens qui percent des points noirs et à des vidéos, ça existe vraiment, et à des vidéos de caméras cachées où des filles caressent la main d'un type en couple dans un escalator. Mélissa Muffin, une réaction? Abonnez-vous à mon OnlyFans. Merci. Et maintenant, on passe au César du meilleur scénario. Les nommés sont... Mathieu Béliard, pour avoir écrit « Dis, ChatGPT, tu peux m'écrire un scénario ?» Géraldine Demory pour « Dis, Grok, tu peux m'écrire un scénario ?» Virginie Fulpin pour « ChatGPT, j'écrirais bien un scénario, ça devient accessible. » Dominique Besnéard, il va avoir des projets de films fous sur son bureau. Incroyable ! Effectivement, Mathieu, effectivement, les amis, j'ai reçu un projet fascinant de Quentin Dupieux. Et Christian Clavier, qui découvre un jour un tapis tout sale et il décide de le laver. C'est André Luciolier qui joue le rôle du tapis, c'est incroyable. Il est minéral, il est antique. Christian Clavier poste la vidéo sur TikTok, s'aperçoit du succès et découvre que sa fille, c'est Laura Felpin, a fait fortune en filmant des chats qui ont peur d'un concombre et qui tombent d'une table de cuisine. Vous l'avez celle-là aussi?
Oui, j'ai vu celle-là.
Ensemble, ils montent un salon de coiffure et ils postent des vidéos où ils font des dégradés à la tondeuse à des gens qui s'étaient pas coupés les cheveux depuis 4 ans. Ça s'appelle « Algorithme, le film ». On a prévu 18 et la troisième va vous étonner.
Merci.
Allez, bon week-end.
Merci Arnaud Demange, ça fait peur pour le cinéma, mais merci. On vous retrouve tous les jours, bien sûr, mais aussi en podcast. Et puis en tournée partout en France avec un nouveau spectacle à Lyon, à Bordeaux, à Creuswald.
Ouais.
Hier, à Versailles, à Poitiers, à Épinal, partout ailleurs.
Partout.
On dirait la Coupe de France.
Ouais.
Un spectacle RMC et un super cadeau de Noël.
N'est-ce pas?
Disons-le, il est 8h23 sur RMC.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Et si on vous offrait de l'argent? Qui dit non? Qui dit non?
Moi, je dis oui.
Et Sandrine, qu'est-ce qu'elle dit? Sandrine, dans le 14e à Paris. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour.
Comment ça va Sandrine?
Ravie de vous entendre.
Moi, j'imagine que vous êtes contente parce que vous avez envoyé Noël au 732-16. Vous avez été tiré au sort. Et tout ce que vous avez à faire, c'est écouter. C'est écouter quand on va ouvrir la case du 19 décembre. Vous êtes prête Sandrine?
Oui, oui.
Vous savez que c'est une spéciale cash aujourd'hui, hein?
Oui.
On va vous envoyer de l'argent.
Attention. Ah ouais?
C'est indécent.
Ouais.
Je le dis ou pas, Sandrine? C'est 5000 euros.
Bravo.
Ah ouais?
Ça rigole pas, hein? Ah, j'ai choisi mon jour pour remplacer un pot, moi. Wow. Et moi une fois, un cadeau, 5000 euros. C'est pour vous, Sandrine?
Oui, merci.
Ça fait beaucoup, hein?
énormément.
Ah ouais, bah, ça fait du bien juste avant Noël aussi, je pense. Ouais.
Exactement.
Bon, Sandrine, responsable commerciale à Paris, qui va repartir avec 5000 euros. En plus, on est dans l'arrondissement d'à côté, on peut passer vous voir et vous faire le chèque.
Et puis on partage,
Sandrine, on prend
partage.
Vos coordonnées en antenne.
Un gros chèque comme à la télé.
Et on vous
carton.
Envoie le chèque de 5000 euros. Bravo Sandrine, et on rejoue dans les grandes gueules et tous les jours jusqu'à Noël. Il est 8h24 sur RMC, tout de suite. Laurent Neumann, le face-à-face avec Thierry Breton, l'ancien commissaire européen. On va parler de la signature de l'accord avec le Mercosur repoussé. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est sur RMC et BFM TV à suivre.
Merci d'écouter RMC, il est 8h26.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clara Gabillet.
Des agriculteurs manifestent devant chez les Macron au Touquet dans le Pas-de-Calais. L'annonce du report de la signature de l'accord avec le Mercosur n'a pas calmé leur colère. Répit obtenu hier à la Commission européenne par la France et l'Italie. Des actions encore prévues aujourd'hui, notamment près des stations de ski des Pyrénées. Le gouvernement ne tolérera plus de nouveaux blocages, prévient sa porte-parole avant une réunion à Matignon avec les syndicats agricoles. La porte-parole Maud Bréjon, qui appelle aussi les sénateurs et les députés à ne pas confondre budget 2026 et présidentiel 2027. C'est aujourd'hui qu'ils doivent aboutir à une version commune du budget en commission mixte paritaire. Tous les parents d'un bébé né à partir du 1er janvier prochain pourront bénéficier du nouveau congé parental, annonce le ministère de la Santé. Un ou deux mois par parent, en plus des congés parentaux déjà existants. Et puis plus de 185 000 jouets dangereux détruits en 2024 en France, selon la répression des fraudes qui alerte sur les jouets vendus sur les plateformes de e-commerce.
C'était le rappel des titres. Merci Clara Gabillet. Dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Laurent Neumann reçoit Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face-à-face. Laurent Neumann.
Il est 8h29 sur RMC et sur BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Je le disais, vous êtes commissaire, ancien commissaire européen au marché intérieur, et donc on a besoin de vos lumières pour comprendre ce qui s'est joué, notamment hier à Bruxelles avec ce report du traité Mercosur et cette nuit avec la prise de parole d'Ursula von der Leyen. Mais vous êtes aussi ancien ministre de l'économie, et là aussi on a besoin de vos lumières sur ce qui va se jouer dès aujourd'hui, la fameuse commission mixte paritaire. Est-ce qu'on aura un budget de la nation pour Noël? Mais d'abord, je voudrais revenir sur cette crise agricole et peut-être sur ce qui est d'une certaine manière l'actualité du matin. On a l'impression qu'au gouvernement il y a deux discours. Sébastien Lecornu qui d'un côté reçoit dans quelques secondes l'ensemble des organisations syndicales, donc on a l'impression qu'il envoie un message de dialogue avec les agriculteurs, et de l'autre Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui dit à partir de maintenant on ne tolérera plus aucun blocage. Donc on a l'impression qu'il y a le dialogue, la fermeté. Vous qui avez passé des années à négocier, c'est la bonne façon de faire?
Je crois que d'abord, ce qu'il faut dire, Laurent Neumann, c'est que la France entière, est derrière ses agriculteurs. À une très, très large majorité, nous soutenons les agriculteurs, y compris dans leur combat contre le Mercosur, et on va y revenir. Donc je crois qu'il faut que les agriculteurs le sachent. Aujourd'hui, le pays est avec eux. Le pays a entendu leur mal-être, les problèmes dont ils sont les victimes, leurs conditions. Et le pays se bat pour eux. La meilleure preuve, c'est que cette nuit, à Bruxelles, on a obtenu, et le président de la République n'est pas pour rien, Madame Meloni non plus, le report de la signature du Mercosur. On va voir comment elle va utiliser le temps, précisément, qui est devant nous, parce que cet accord, je le dis, doit être revu. Il n'est pas satisfaisant à l'État. Et le pays est donc avec eux. Donc, moi, j'ai pas de conseil à donner à quiconque, vous le comprendrez bien, ce matin, à votre micro. Il n'en demeure pas moins que, bien sûr, il faut dialoguer. Il faut comprendre, il faut voir comment on bâtit ensemble ce dont nos agriculteurs ont besoin. Mais aussi, il faut évidemment, bâtir ce que nous allons faire ensuite ensemble. Donc c'est pas la peine.
On sent bien, Thierry Breton, avec ce qui se passe là encore. On parlait de ce qui est en train de se passer au Touquet, devant la résidence d'Emmanuel et de Brigitte Macron. On voit bien la colère des paysans. On voit bien que ce report du traité du Mercosur, il est très insuffisant pour calmer la colère. Et d'où ma question, est-ce que le fait d'envoyer des messages de fermeté sur les barrages, est-ce que c'est au fond la bonne façon de faire, même si on est à la veille des vacances de Noël?
La bonne façon, c'est évidemment de discuter, de les accompagner. Et je crois que pour eux, c'est de comprendre que malgré tout, cette nuit, ils ont obtenu, évidemment, quelque chose qu'ils demandaient, et ils avaient raison. Bon, ben maintenant, c'est pas la peine, encore une fois, de prendre les Français en otage, et en particulier, me semble-t-il, pour les fêtes de Noël. Il vaut mieux, effectivement, se mettre ensemble, et puis voir comment on va bâtir précisément les rapports de force, pour qu'en janvier, alors on sait pas quand, on va parler évidemment de ce qui s'est passé cette nuit, eh bien, voir comment, ensemble, avec les agriculteurs, on pèse pour, si jamais Mercosur, il doit y avoir, et je le dis, cet accord, il y a des côtés qui sont positifs, et en particulier pour l'industrie, pour les produits, évidemment, qui ne sont pas les produits agricoles, mais pour tout le volet agricole, voir comment on peut le renforcer pour qu'il soit acceptable pour
alors,
tous et pour nos agriculteurs.
Juste avant de rentrer sur ce plateau, vous m'avez dit, j'ai regardé jusqu'à 4h du matin la conférence de presse d'Ursula von der Leyen, j'ai tout suivi. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier pour qu'elle soit obligée de reculer, pour que Giorgia Meloni change d'avis et finalement rejoignent le camp des anti-Mercosur. Il s'est passé quoi concrètement dans la coulisse ?
Bah, il s'est passé d'abord que, vous savez, pour pouvoir, d'abord sur cette affaire du Mercosur, pour pouvoir le signer, la présidente de la Commission avait décidé, j'allais dire quoi qu'il arrive, d'aller ce samedi le signer donc au Brésil. Mais évidemment, pour ceci, fallait-il encore que tous les États membres, en tout cas la majorité qualifiée des États membres, lui donne son feu vert.
Qu'il n'y ait pas de minorité de blocage.
Ça veut dire que la minorité de blocage, pour nos téléspectateurs, c'est qu'il y a au moins 4 pays, s'il y a 4 pays qui bloquent.
Et 35% de la population. Européenne.
Donc évidemment, avec la France, la Pologne et l'Italie, c'était plié, si vous permettez
Mme Meloni a changé d'avis. Ça va nous compter combien, d'ailleurs, son revirement? Elle a cherché à négocier quelque chose?
Alors, on verra. D'abord parce qu'elle aussi, elle a des agriculteurs, et elle aussi, en Italie, les agriculteurs disent la même chose que nos agriculteurs à nous. Donc, elle les a entendus. Et puis, bon, Mme Meloni, on sait que c'est une négociatrice. Donc, avec elle, bon, faut pas lui reprocher. Quelque part, elle va défendre les intérêts de son pays. Rien n'est gratuit. Donc, on va voir, évidemment, il faut suivre ça de façon très, très attentive. Mais j'allais dire, il faut aussi l'expliquer, il y a quand même aujourd'hui un grand perdant. Ce grand perdant, je regrette de reste qu'on parle entre gagnant et perdant, parce que derrière, quand on parle comme ça, c'est l'Europe qui perd. Mais c'est vrai que le chancelier allemand, Friedrich Merz, poussé, évidemment, pour le signer, quoi qu'il arrive, c'est du reste, je pense, lui qui avait largement été derrière la présidente de la Commission lorsqu'il avait incité...
Avec les Espagnols, avec les pays scandinaves.
C'était vraiment lui qui était à la manœuvre, évidemment. Aujourd'hui, il n'a pas eu gain de cause. Et c'est pour ça qu'il va être il va falloir être très attentif.
Est-ce que pour autant, on peut dire que c'est une victoire pour Emmanuel Macron, pour Giorgia Meloni et par ricochet pour les agriculteurs
français?
Alors,
je vous le dis, j'aime pas beaucoup qu'on parle d'échec ou de victoire, parce qu'encore une fois, l'Europe doit arriver comme au rugby, hein, en pack. Hein. Bon, là, évidemment, le pack, il est un peu fracturé. On est obligé de le dire, hélas. Mais c'est vrai que le président de la République menait... À juste titre, et je l'ai dit, bon, pourtant je suis pas un suspect, j'ai aussi évidemment un œil très attentif sur les aspects libéraux, je suis un libéral. Mais c'est vrai que cet accord qu'on négocie depuis 25 ans, il a été initié il y a 25 ans, il y a un quart de siècle, et aujourd'hui ça correspond plus à ce qu'on fait. C'est bien d'avoir des accords évidemment de commerce, et surtout avec cette partie du monde.
Donc vous faites partie de ceux qui disent, on a bien fait de pas le
faire. Je l'ai toujours dit, il y a un volet qui est très, très, très positif, c'est le volet évidemment industriel, et un volet qui n'est pas aujourd'hui satisfaisant, c'est le volet agricole. Donc il faut encore.
Et donc si je vous comprends bien, vous dites
pas.
Même s'il y a des côtés positifs, il ne faut pas pour autant abandonner des filières agricoles entières au profit de l'industrie, même si on se tire une balle dans le pied d'une certaine manière.
La vie politique, c'est pas où, la vie politique, c'est et à partir du moment où il y a une partie très importante de ceux qui vont être impactés par cet accord, qui ne sont pas à juste titre satisfaits, il faut en tenir compte. Donc, voilà, il va rester maintenant, je ne sais pas, est-ce que ce sera 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, on verra. L'histoire n'est pas encore écrite. Il va falloir donc utiliser ce temps pour pouvoir agir de façon, encore une fois, concertée avec ceux qui pensent comme nous. Et ce sera évidemment pas les Allemands.
Vous avez dit, Thierry Breton, il y a des perdants. Vous avez cité le chancelier allemand, la présidente de la Commission européenne aussi. Mais voir Emmanuel Macron aux côtés de Giorgia Meloni, du Hongrois Viktor Orban, c'est pas là où on l'attendait, Emmanuel Macron. Et je me pose la question de savoir si, au fond, à travers ce débat sur le Mercosur, il n'est pas un petit peu en train de d'abandonner son propre héritage européen, parce que ça donne tout ça une image de l'Europe absolument déplorable.
Si vous permettez, je pense qu'on mélange un peu plusieurs choses. Il y a effectivement les partis politiques ou les couleurs politiques de ceux que vous venez de citer en particulier. Mais enfin, c'est ça l'Europe. Et c'est normal que dans l'Europe, bah, il y a des partis différents et c'est comme ça. C'est notre diversité. Mais derrière, il n'y a pas que Madame Meloni ou Monsieur Orban. Il y a aussi Monsieur Donald Tusk, le Premier ministre polonais. Il y a aussi les Belges. Il y a aussi les Irlandais. Donc je peux vous en citer un certain nombre. Les Autrichiens. Mmh. Donc voilà. Donc derrière, encore une fois, et ça veut dire quoi, Monsieur Neumann? Ça veut dire que c'est essentiellement l'Europe agricole. Il faut en tenir compte. Et c'est vraiment important. On marche sur deux jambes. On ne marche pas uniquement sur l'automobile. On marche sur deux jambes.
Oui, c'est intéressant ce matin de vous écouter, d'entendre un libéral comme vous dire, même si c'est bon pour notre industrie, il ne faut pas pour autant sacrifier l'agriculture.
J'entendais, c'est indispensable.
J'entendais ici même, cette semaine, Dominique Schulcher, le patron de Coopérative U, qui disait le Mercosur, c'est le Chine de la concurrence déloyale. Il disait, nous, on n'achètera jamais ces produits d'Amérique latine, s'il y a des produits équivalents français. Est-ce que vous dites ce matin qu'au fond, toute la grande distribution devrait réagir de la même manière?
Non, là, je veux pas du tout, c'est eux qui décideront. Et je dis qu'encore une fois, il y a des solutions, il y a des clauses de sauvegarde, celles qui ont été mises sur la table, pardon de cette expression, mais c'est une usine à gaz, donc il faut faire les choses de façon beaucoup plus simple, plus contrôlable, parce qu'encore une fois, derrière, il n'y a pas uniquement la nécessité d'avoir des accords équilibrés. Il y a aussi la raison pour laquelle, pour nous en Europe, c'est vrai que l'agriculture a des contraintes, parce que pour nous, la sécurité alimentaire, on le voit en ce moment, effectivement, avec ce qui se passe notamment dans notre cheptel, la sécurité est absolument indispensable, donc on doit imposer aux autres les mêmes normes qu'on impose pour les nôtres.
Mais c'est ça tout. Le vrai sujet, au fond. Comment on explique à des agriculteurs qu'on va importer en France et en Europe des produits qui ne répondent pas aux normes qu'on leur impose à eux,
si on...
des normes sanitaires, des normes sociales, environnementales? Comment on n'imaginerait pas ça, par exemple, pour l'importation d'une voiture?
Eh bien, ça donne donc effectivement le mal-être qui se traduit par les mouvements dont on parlait au début de notre entretien. Et c'est la raison pour laquelle... 1. Le message est entendu. 2. La France et les Français sont avec les agriculteurs. 3. Il faut qu'on pèse ensemble. Et c'est pas la peine d'aller déverser je ne sais quoi ou casser je ne sais qui.
Juste un dernier mot sur ce fameux traité du Mercosur. On a bien compris qu'il était reporté de 3 semaines à 17 nuits, Ursula von der Leyen. C'est un report diplomatique. Ça veut dire qu'il est enterré, il est repoussé aux calendes grecques. Ou au fond, ce qu'on est en train de vivre, on va le revivre de la même manière après les fêtes de fin d'année?
Eh bien ça, justement, personne ne le sait. Et c'est donc maintenant qu'il va falloir, je dirais, utiliser ce temps. Alors, c'est la Commission qui dit ça, je pense qu'elle s'est avancée. À partir du 1er janvier, c'est plus le Brésil qui prend la présidence du Mercosur, ce sera le Paraguay. Le Paraguay est beaucoup plus réticent que l'était Monsieur Lula, le président du Brésil. Donc on va voir, et c'est aussi la raison pour laquelle, entre nous, il faut le dire, la Commission était aussi pressée pour aller signer avant Noël, parce qu'avec Lula, elle savait qu'elle avait un allié. Avec le Paraguay, ça va être une autre histoire.
C'est moins clair.
Voilà, il va falloir utiliser tout ça, c'est la politique.
Alors, je le disais, vous êtes aussi ancien ministre de l'économie. J'imagine que vous suivez attentivement ce qui se passe au Parlement. Est-ce qu'on aura un budget pour Noël? Il y a cette fameuse commission mixte paritaire, cette députée, cette sénateur qui se réunit aujourd'hui à Matignon. On laisse entendre que la radicalité de certains sénateurs de droite fait que tout ça est déjà voué à l'échec avant même d'avoir commencé. C'est quoi la porte de sortie pour Sébastien Lecornu? Comment on fait pour avoir un budget là avant la fin de l'année?
J'ai pas envie de vous faire une confidence, Laurent Neumann. Ce matin, vous me dites vous suivez attentivement. J'ai presque envie de vous dire que non, je suis plus attentivement, parce que je suis comme beaucoup de Français, on en a assez de ce qui se passe aujourd'hui. Je dirais,
c'est ce que disent beaucoup de parlementaires,
hein. Et beaucoup de chefs d'entreprise, parce qu'on en a assez de ce qui se passe. 4-5 gouvernements depuis la dissolution. Je sais, les entreprises, elles ont compris que il fallait plus regarder ce qui se passe, parce que un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, le surlendemain c'est gris. Donc ils avancent. Alors voilà, on a maintenant un PLFSS, un budget de la sécurité sociale. On sait, il faut pas se raconter d'histoire, que le budget il passera pas. Donc on va avoir encore. C'est pas la peine d'essayer de se raconter des histoires. Ça risque. Alors j'ai pas de boule de cristal.
Et donc c'est comme le Mercosur. Donc partira vers de nouvelles négociations en janvier.
C'est pas la peine d'accuser, je crois, là encore, les uns et les autres. Malheureusement, je vais vous dire malheureusement. Pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'on sait que ça va finir. Évidemment, il y aura un budget. Est-ce que ce sera par le biais de la CMP? Est-ce que ce sera par le biais d'une loi spéciale, l'article 47? Est-ce que ce sera avec un 49.3? On aura un budget. Moi, je le dis aux Français aujourd'hui, c'est évident. Mais malheureusement, ce budget, Laurent Neumann, ben, il finira au-dessus de 5% de déficit.
Je le disais, il y a un instant.
Et au-dessus de 5% de déficit, ben, c'est une tragédie pour la France.
Je vous ai lu, vous venez de publier un livre qui s'intitule « Les 10 renoncements qui ont fait la France ». Il y a tout un chapitre très large consacré à la dette. Je vais même vous citer, vous dites « Un pays qui ne compte pas est un pays qui ne compte plus ». Mais là, pour le coup, ce rapport à la dette, il est partagé par tous les bancs politiques. Le gouvernement a présenté un budget sous les 5%, il sort du Sénat à 5,3%. Clairement, on sera au-dessus de 5% et la dette, on s'en occupera plus tard. C'est ça le message.
Eh bien, voyez-vous, c'est pour ça que j'ai intitulé ce chapitre que vous citez dans mon livre « Les 10 renoncements qui ont fait la France ». J'ai essayé de comprendre comment on en est arrivé là. Pourquoi, depuis un certain nombre d'années, la France renonce? Et depuis 1974, on renonce à avoir un budget à l'équilibre. Et là, on avait dit, qu'on avait juré que ça y est, là, on sera vraiment en dessous de 5%. Et ben, patatras, on va être encore à 5,3 ou 5,4%.
Il faut peut-être expliquer, pardon, Thierry Breton, pourquoi ce seuil de 5% est important. Le gouverneur de la Banque de France dit, si on est au-delà de 5%, on met clairement, la France en danger. Il a raison ou c'est excessif?
Le seuil de 5%, c'est parce que depuis maintenant 5 ans, on n'arrive plus à faire un budget en dessous de 5% de déficit. On est le seul pays d'Europe, je le dis bien pour nos téléspectateurs, qui n'arrive pas à faire un budget en dessous de 5% de déficit. 5% de déficit, ça veut dire 150 milliards de dettes en plus tous les ans. Et on n'arrive pas à déséquilibrer. La France engrange, avec ses taxes et rentrées diverses, 1500 milliards par an, elle dépense 1670 milliards. Ça fait 170 milliards de plus. 170 milliards, c'est deux fois l'impôt sur le revenu de tous les Français. On vit, on n'arrive plus à vivre, encore une fois, de façon équilibrée.
Oui, pardon, donc, je sais pas que vous regardez moins, peut-être, vous venez de me le dire, ce qui se passe au Parlement. Enfin, tous ces chiffres, ces données-là, nos parlementaires de droite, de gauche, ils les ont, comme vous. Donc, il est où l'intérêt général au moment de voter ce budget?
Ben, vous voyez, ça a fait tomber l'un de nos nombreux premiers ministres, François Bayrou. Il a vraiment fait un travail pédagogique très important. Il a expliqué aux Français. Il a tellement expliqué que finalement, on n'en a plus voulu. Et c'est bien. Alors, évidemment, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. Il y a des voix. Les Allemands étaient dans une situation difficile aussi. Ils se sont donné les moyens de le faire. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont mis tout simplement dans leur constitution l'obligation de ne plus avoir de budget en déséquilibre.
La fameuse règle d'or.
Et ben, je pense que la France va devoir passer par là. C'est aussi l'une des propositions que je fais dans mon livre.
Et on va revenir à l'Europe. Parce qu'il y a une actualité aujourd'hui, c'est Chine qui va savoir si le tribunal judiciaire de Paris suspend cette plateforme ou pas. C'est une demande de l'État à cause de tous les produits illicites qui étaient vendus sur cette plateforme de commerce. Vous vous souvenez, les poupées pornographiques, les armes de catégorie A. Est-ce que c'est la bonne méthode, au fond, pour faire plier Chine, de passer par la justice française? On revient à notre sujet de départ. Elle est où, l'Europe? C'est pas à l'Europe de gérer cette question-là?
Alors, Chine, vous avez parfaitement raison. Chine est une plateforme donc que maintenant nos compatriotes connaissent. C'est une plateforme qui fait donc du e-commerce en particulier, et à ce titre, parce qu'elle a plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe, elle est considérée comme ce qu'on appelle une plateforme systémique, c'est-à-dire une plateforme qui peut jouer un rôle important en cas de défaillance sur l'ensemble de l'Europe. Et lorsque j'étais commissaire, donc j'avais la charge de la régulation, vous vous souvenez, c'est ce fameux DSA. Je crois que maintenant on a bien...
Digital Services Act.
Absolument.
C'est l'Europe qui doit s'en occuper.
C'est l'Europe qui doit s'en occuper. J'avais moi-même du reste désigné, c'était mon rôle, hein, je le dis, Chine comme plateforme systémique, et à ce titre, elle a des obligations très importantes.
Ouais, mais pardon, je vous interromps, j'ai regardé les récents contrôles, entre 70 et 100% de non-conformité de ce qui est vendu sur la plateforme. Il y a des textes formidables, mais que fait l'Europe? Pourquoi ne sont-ils pas appliqués?
Eh bien voilà, l'Europe a cette obligation, et là encore... Il faut demander, effectivement, à l'Europe de le faire. C'est une obligation. Et si jamais l'Europe ne le fait pas, eh bien, évidemment, la Commission est en infraction. Je suis de ceux, je vais pas, encore une fois, donner des bons points ou des mauvais points, mais compte tenu de l'impact délétère que Chine a démontré avoir en utilisant sa plateforme de façon non conforme, il est urgent que l'Europe intervienne. Elle en a les moyens. Elle doit les utiliser, mais je rappelle que les États membres, et en particulier la France, ont aussi le droit, lorsqu'ils voient des infractions par rapport à nos lois qui se produisent sur ces plateformes, elle doit agir. C'est ce que la France a fait, à juste titre.
Mais si je résume,
il n'en demeure pas moins que l'Europe, à son niveau, doit aussi. Et voyez-vous, tout ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une Europe qui perd un peu son leadership.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. Il n'y a toujours pas d'Europe de la défense. Les 27 se déchirent sur le Mercosur. On a parlé longuement. L'Union est incapable de se protéger contre ces plateformes chinoises. Mais j'imagine que Trump, Poutine, le président chinois, ils doivent se frotter les mains quand ils regardent ce
qui se passe. Je suis de ceux qui pensent, et c'est vraiment mon intime conviction, que nous devons être unis et ensemble à 27, parce que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, entouré de prédateurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis d'Amérique, notre seule vocation à nous et notre seule chance de salut, c'est d'être ensemble. Mais pour ça, on a tout ce qu'il faut. Il faut du leadership. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos institutions européennes, bien, force est de constater que sans leadership, ben voilà les discussions que nous avons. Il est urgent que nous ayons à nouveau du leadership au niveau de nos institutions européennes.
Merci, merci Thierry Breton. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
Merci Laurent Neumann. Dans un instant, la semaine face à Canteloup avec Nicolas Canteloup qui revient sur une semaine riche en actualité.
RMC. Une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, Apolline recevait Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, ancien patron de la SNCF. Et il est resté face à Canteloup.
Rebonjour, monsieur Farandou.
Bonjour.
Et son successeur à la SNCF, David Rameau.
Bonjour. Bonjour, Jean Castex.
Vous avez reconnu, monsieur Castex.
C'est une évidence. Les imitations sont tellement parfaites. Je voulais remercier Jean-Pierre Farandou, mon prédécesseur à SNCF, qui m'a laissé une entreprise dans un état. Avec des liaisons TGV qui changent la vie des gens, il faut bien le dire. Hein. Le Lyon-Bordeaux, parce qu'il est de Bordeaux. Hein, le Lyon-Bordeaux direct, hein, bon, qui fait un petit crochet par Paris.
Voilà.
Hein, mais pareil, le Strasbourg-Brest, hein, direct, hein, qui fait un petit crochet par Perpignan.
Bien sûr.
Bref, il m'a laissé un maillage exceptionnel. Hein, vous voyez, ce qui fait que je n'ai plus rien à faire, je prends tout.
Monsieur le Président, un mot pour les agriculteurs français.
Oui, écoutez, je comprends que ce soit difficile de devoir se séparer de son cheptel. Je sais ce que c'est, puisque moi, aux dernières législatives, on m'a abattu la moitié de mes députés.
La colère des agriculteurs.
Écoutez, nos agriculteurs, ils sont bien sympathiques, mais je ne crois pas trop à leur combat.
Ah bon ?
Mais on nous dit qu'ils sont en détresse, en dépression, au bord du suicide. Hein ? Et qu'est-ce qu'on voit sur les images chez vous, à la télé, chez BFM ? Hein ? Des agriculteurs tout souris autour d'un bras zéro, en train de préparer un méchoui, le café dans une main, le petit verre de gnôle dans l'autre main, hein ? Avec des grosses enceintes comme dans les rêves parties. Quand je parle des grosses enceintes, c'est les baffes.
Hein, ah oui, bien sûr.
Les mêmes rêves parties qu'ils dénoncent quand elles ont lieu dans leur propre champ. Et puis, on nous dit que les agriculteurs bossent comme des dingues, hein, qu'ils ont des journées à rallonge. Mmh. D'accord, mais qu'est-ce qu'on voit sur vos images, madame de Malherbe, hein? Pas une seule femme sur les points de blocage que des hommes. Mmh. Hein, les femmes, elles sont tous à la ferme en train de trimer à s'occuper des vaches. Elles ont, et pendant que les gars se tapent le carton et picolent sur les barrages routiers. Mais, et puis franchement, les agriculteurs pleurnichent qu'ils n'ont pas assez de sous. Hein, et bien, vous avez vu leurs tracteurs? C'est des tracteurs de 300 chevaux, 300 000 balles pièce. C'est le prix d'une Bentley neuve. Alors, on va me dire, oui, mais achète à crédit. Mais enfin, Dominique le sait. Vous en connaissez, vous, des banquiers qui vous prêtent 300 000 balles quand elle la ramasse au bord du dépôt de bilan? Non, ça n'existe pas. Donc, pour résumer, si les agriculteurs passent leur temps à se plaindre, c'est pas à cause de leur métier, c'est parce qu'ils sont français. Putain, j'aurais dû faire Premier ministre, président suisse.
Merci, monsieur le Président. Justement, l'un des leaders de ce mouvement agricole est avec nous ce matin. Bonjour, Jérôme Reich. Vous refusez toujours l'abattage systématique?
Plus que jamais, madame Malherbe. Bonjour à monsieur Cher, qui distribue nos produits. Je la remercie, des produits locaux. Quand on a élevé un cheptel, moi je vous le dis, on y tient, on les nourrit, on les soigne, on les voit grandir nos bêtes. Vous savez, pour un paysan, ses vaches, c'est comme sa famille. On les aime comme nos enfants. On ne veut pas qu'elles soient abattues froidement, qu'elles finissent comme ça, broyées, incinérées. Elles ne méritent pas ça, nos vaches.
Oui, c'est sûr. Ce sont des races à viande ou des races laitières?
Ben, à viande.
Ah oui, donc tôt ou tard, quand même, vous allez finir par les manger.
Non, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est comme le bon chasseur, le mauvais chasseur.
Ah oui.
Hein, jamais on abattrait une vache. Non, on les respecte, nos animaux, nos bêtes. On les fait juste à un moment donné, quand elles arrivent en maturité, on les fait monter dans un gros camion. Voilà, bon, on les pousse un peu au cul parce qu'il faut quand même qu'elles arrivent à rentrer à 30 dans un camion pour 12, tu vois. Puis après, on leur fait coucou et la main. Tu sais, comme nos gamins qui partent en colonie de vacances. Moi, le camion s'en va, le rétroviseur fait coucou comme ça. Puis après, bon, elles ont sur place, bon, mais elles arrivent, elles ont des activités, tu vois, comme les gamins, elles ont du découpage, un peu de gymnastique, font le poirier, font du trapèze, tu vois, accrocher les pattes arrière en équilibre, bien droite, ça fait un peu de gainage, c'est activités, c'est bon pour la santé.
Oui, enfin, c'est bon pour la santé, ça s'appelle quand même un abattoir, Jérôme Bail, à un moment, ça finit
non,
mal.
Non, on peut pas dire ça, madame, malheur, voilà, je m'inscris un faux. Je m'inscris un faux. Les vaches, elles reviennent souvent d'ailleurs à la maison. Et on leur a toujours préparé une petite chambre qui est réservée pour elles. Et si la chambre froide est occupée, ben, on les dépanne toujours. Il y a toujours un coin pour elles dans le congélo, dans le frigo. Voilà. Et puis on est toujours content de les retrouver au moment des repas. C'est convivial. Voilà. C'est un moment de partage. C'est bien. Elles sont là. Nos vaches, on les oubliera jamais. Dans la preuve, on les a même emmenées avec nous. Sur le plein de bocage. Sur le plein de bocage, elles sont là. Pas loin, bien au chaud, bras zéro. Et voilà. Putain, Christian! Putain, pas trop cuite, je t'ai dit, tu me l'as fait cramer, là!
On reproche aux Français de ne pas travailler assez. Nos voisins allemands travaillent chaque année près de 120 heures de plus que les Français. Angela Merkel, vous l'avez entendu, est avec nous.
Oui, bonjour, monsieur Farandou, bonjour, Apolline de Mahalirp. Et c'est vrai que le temps de travail, c'est un vrai sujet pour vous en France. Et regardez, rien qu'ici dans ce studio, ils sont 15. D'accord. Mais il n'y a que Apolline qui bosse. Et puis, si ça va, les autres, tranquilles. Hein. Regardez ce garçon, ce jeune garçon, Aurel Getsch.
Oui,
il est médecin. Médecin, oui, on ne dirait pas s'il, mais il a le diplôme. Et il y a plein de patients dans les urgences qui attendent, qui sont bondés. Lui, non, lui fait les petits selfies, les petites vidéos, il rigole, voilà. Et dimanche, il fait deux fois trois minutes de blague, et après, la journée, elle est finie. Et Texer, il liste un genre, ils font les formations, tu parles, ils font pas les journaux entiers, ils font les petits flashs. Ils ont un petit flash, ils vont une épaule. Et petit flash encore. Non, franchement, et c'est un pays de feignasses. Voilà, il n'y a qu'à Caroline qui bosse vraiment. Et Cantelou aussi, beaucoup.
Oui, Cantelou.
Oui, c'est peut-être le plus gros bosseur. Oui, parce qu'Apolline, juste, elle lit, mais c'est Cantelou qui l'a tout écrit. Si. Tu sens la feuille d'Apolline, elle est perdue, elle est pauvre. Tu perds le tête,
non,
on la perd. Si, t'as ta feuille.
Oui, je garde ma feuille. Arrêtez, c'est n'importe quoi, madame Merkel.
Merci Nicolas, c'était Face à Cantelou, que vous retrouvez absolument quand vous le souhaitez en podcast, lundi matin sur RMC, et dans un instant, les GG sur RMC avec Alain Marchal et Olivier Touffe.